Good evening, friends. A great privilege to be back here in the house of
Bonsoir, mes amis. C'est un grand privilège d'être de retour dans la maison du Seigneur ce soir pour la réunion. Et nous nous réjouissons encore de la manne reçue ce matin, alors que nos âmes ont été si abondamment bénies par sa glorieuse présence. Et maintenant, ce soir, nous abordons le sujet de la brèche entre les sept âges de l'Église et les sept sceaux. Et je parlais cet après-midi à un ami. Et peut-être que, si le Seigneur le veut, dans le courant de l'été, s'il ne me prend pas à la maison, ou si j'ai l'occasion de revenir, que je ne vais pas outre-mer, ou quelque chose, j'aimerais encore aborder les sept dernières trompettes. Vous voyez? Et toutes ces choses sont reliées. Et il y a aussi les sept derniers fléaux, là. Et tout cela va ensemble, comme nous le verrons en cours de route. Alors, ce soir, pendant que nous nous calmons un peu, il se peut que je sois un peu long ce soir, même avec, dès que je reviens ici. Bon, malgré tout ce que j'ai pu prêcher à Phoenix, je ne me suis même pas enroué une seule fois. Vous voyez, c'est vrai. Et, oh là là, j'ai prêché de toutes mes forces. En effet, je crois que j'ai fait 27 réunions sans m'enrouer. Mais c'est ce climat d'ici, vous voyez, il est malsain ici. C'est cette vallée. Les conditions sont vraiment mauvaises ici. Et côté santé, vous savez ce que je veux dire. C'est malsain. Et tous les prédicateurs qui prêchent ont la gorge fragile pour commencer. Une fois, un médecin de mes amis m'a examiné la gorge pour voir ce qui n'allait pas. Il a dit, rien. Il a dit, tout ce qu'il y a, c'est que tu as des callosités sur les cordes vocales, là. Il a dit, c'est à force de prêcher. Eh bien, je suis assez content de cela, vous savez. Ça m'a fait du bien. Tant qu'on peut attribuer cela au fait de prêcher, vous voyez, c'est bien. Tant que c'est pour le royaume de Dieu. Maintenant, peut-être que nous ne pourrons pas porter sur notre corps la marque de Jésus-Christ, comme Paul, après avoir été battu. Mais nous pourrons peut-être porter une marque à force d'avoir prêché et élevé notre voix contre les choses mauvaises. Donc, nous sommes bien contents qu'on ne nous inflige plus d'être battus, du moins jusqu'à présent. Alors, nous sommes... Combien ici ont lu « Messieurs, quelle heure est-il » ou l'ont entendu, vous savez, « Messieurs, quelle heure est-il » Voilà quelque chose qui m'a beaucoup troublé. Si vous ne l'avez pas fait, j'aimerais que vous trouviez le moyen de l'écouter, d'une façon ou d'une autre. Ça m'a pas mal troublé. Je voulais juste glisser ceci avant de commencer la réunion. Il y a environ une semaine ou 10 jours, j'étais tellement troublé. Je refusais de prêcher, et tout, parce que je ne savais pas. Il semblait possible que ce soit quelque chose de mauvais, et je ne savais pas exactement de quoi il s'agissait. Alors, un matin très tôt, je me suis levé pour aller dans le canyon Sabino. Et à partir de la maison, c'est seulement un trajet d'une trentaine de minutes en voiture pour se rendre à, ou 40, pour se rendre à la tête du canyon Sabino. Et après, il y a une route longue de 50 km qui monte dans la montagne. C'est une région étrange là-haut. Je peux être ici dans le désert où il fait 27 à 33 degrés Celsius en ce moment et dans 30 minutes être dans 2,5 mètres de neige. Vous voyez, au sommet de la montagne. Nous étions à Phoenix dernièrement où il faisait autour de 2 degrés Celsius au-dessous de zéro. Ils avaient chauffé la piscine et des gens se baignaient. Et au bout d'une quarantaine de minutes de voiture, il faisait 40 degrés au-dessous de zéro à Flagstaff. Voyez, voilà la différence entre les courants d'air ascendants et le désert. Et c'est très sain pour les asthmatiques et tout. Mais donc, je suis allé dans le canyon et j'ai grimpé aussi haut que j'ai pu. Et j'ai demandé au Seigneur pendant que j'étais perché là-haut ce que tout cela signifiait et tout. J'étais quelque peu troublé et je ne savais pas trop quoi faire. Et alors, pendant que j'étais en train de prier, il s'est passé quelque chose d'étrange. Je veux être honnête. Bon, il se peut que je me sois endormi. C'était peut-être un genre de transe, ou c'était peut-être une vision. J'ai plutôt tendance à croire que c'était une vision. Et j'avais les mains levées. Je disais, Seigneur, cette explosion, qu'est-ce que ça veut dire? Et ces sept anges, dans une constellation en forme de pyramide, qui m'ont soulevé de la terre et se sont tournés vers l'est, qu'est-ce que ça veut dire? J'étais là, en prière, et il s'est passé quelque chose. Et là, quelque chose m'est tombé dans la main. Je sais que, quand on ne comprend pas les choses spirituelles, cela peut sembler très étrange. Mais quelque chose est arrivé dans ma main, d'un coup. Et quand j'ai regardé, c'était une épée. Et la poignée était de nacre, du plus beau nacre que j'ai jamais vu. Et là, la garde, vous savez, là où c'est ce qui servait, j'imagine, à éviter de se faire couper la main quand les gens se battaient en duel. Elle était en or. Et la lame du sabre n'était pas très longue, mais elle était tranchante comme un rasoir. Elle était en argent étincelant. C'était la chose la plus jolie que j'ai jamais vue. Elle s'adaptait exactement à ma main. Et je la tenais. J'ai dit, que c'est joli. Je l'ai regardé et je me suis dit, mais tu sais, j'ai toujours eu peur des épées. J'étais assez content de ne pas avoir vécu à l'époque où on s'en servait, parce que j'ai peur des couteaux. Et alors, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais bien faire avec cela? Et pendant que je la tenais dans ma main, une voix qui venait de quelque part a dit, « C'est l'épée du roi ». Et alors, elle est partie. Eh bien, je me suis demandé ce que ça voulait dire. C'est l'épée du roi. Et je me suis dit, s'il avait dit l'épée d'un roi, j'aurais peut-être pu comprendre. Mais il a dit l'épée du roi. Aussi, peut-être que je ne le comprends pas bien, mais je me suis dit, il n'y en a qu'un qui est le roi, c'est Dieu. Et son épée, c'est ceci, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants, vous voyez. Et si vous demeurez en moi et que mes paroles, vous voyez. Et j'ai pensé, dans un combat en duel, vous voyez, et tel que je le compte, je ne comprends pas un seul mot, mais ou pas une seule règle du combat en duel. Mais pour autant que je sache, ce qui se passe, c'est que les couteaux s'entrechoquent. Et finalement, si les épées se bloquent, si votre adversaire et vous bloquez vos épées comme ceci, alors il faut de la force de la part de l'homme qui se bat en duel. En effet, vous voyez, son épée sera pointée vers mon cœur et la mienne vers le sien, mais elles sont bloquées. Nos lames s'entrechoquent et, en s'entrechoquant, les épées se soudent. Et celui qui arrivera à terrasser l'autre aura son épée toute prête à lui transpercer le cœur. Alors, il faut, même si l'épée est la parole, il faut une main de foi solide pour la tenir là, pour l'amener droit au cœur de l'adversaire. Bon, sans connaître ces choses, mais simplement, tout ce que j'ai reçu de lui et que je peux dire, je vous l'ai dit. Et ainsi, vous savez, je crois que c'est, n'est-ce pas notre Seigneur qui a dit que tout ce qu'il avait reçu du Père, il l'avait dit sans en rien cacher. Et alors, nous voulons faire ces choses au fur et à mesure. Maintenant, si vous voulez faire preuve de beaucoup de sagesse et prier, je suis sûr que très bientôt, vous allez comprendre quelque chose. Bon, quelque chose qui, je l'espère, sera révélé. Bon, dans ce livre, prenons maintenant ensemble le chapitre 5 du livre qu'on appelle « La révélation de Jésus-Christ ». Or, demain soir, ce sera le premier sceau. Et les quatre premiers sceaux s'ouvrent avec quatre cavaliers, un pour chaque sceau qui frappe la terre. Et puis, ceux-là ne seront peut-être pas longs. Nous les verrons probablement d'ici lundi, mardi, mercredi, d'ici jeudi. Ensuite, j'imagine que le sixième et le septième sceau seront probablement très longs. Donc, peut-être que d'ici là, vous aurez l'occasion de récupérer un peu. Nous avons l'intention de commencer les réunions ici, je crois, à 19h les soirs de semaine. Et je dois être sur l'estrade à 19h30 précise. Et comme ça, nous allons peut-être pouvoir terminer vers minuit. Alors, j'ai dépassé mon temps d'une heure ce matin. Je ne suis pas sérieux là, je ne sais pas à quelle heure. En effet, Je ne sais pas ce qu'il en est du premier cavalier. Je ne sais pas ce qu'il en est du deuxième, du troisième, du quatrième, du cinquième, du sixième, ni du septième saut. Jusqu'ici, je ne sais pas. Voyez ? Je compte seulement sur lui. Alors, c'est pour ça que je vais tâcher cette semaine, si la grâce de Dieu me vient en aide, parce que je crois que si vous comprenez profondément, vous savez, dans les visions, vous ne pouvez pas révéler les choses tant qu'il ne vous est pas permis de les révéler. Combien de fois vous m'avez entendu dire, dans une maison, en entrant, il y aura, disons, un chapeau posé ici. Et l'enfant en question, ou autre, il ne sera pas guéri tant que le chapeau ne sera pas placé ici. Je ne peux pas leur dire, pas plus que je ne peux le placer là moi-même. Il doit être déplacé par un autre moyen. Quelqu'un d'autre doit le prendre et le déplacer. Et tout doit être en ordre. Et alors, cela peut être révélé. Alors maintenant, soyez en prière. Maintenant, juste avant d'aborder le livre, parlons-lui, alors que nous courbons la tête. Seigneur Jésus, nous sommes totalement insuffisants. Nous n'oserions jamais essayer d'aborder ce livre sacré en cette heure très sainte où les âmes, suspendues dans le temps, attendent leur destinée sans demander. Seigneur, que le seul qui puisse révéler ce livre s'avance maintenant pour bénir les faibles efforts de ton serviteur. Bénis la parole alors qu'elle sera annoncée, qu'elle soit apportée dans la puissance de l'Esprit, et que la terre spirituelle des ceux qui ont faim et soif de connaître la justice et de connaître la volonté de Dieu puisse-t-elle tomber en eux et produire selon son espèce. Accorde-le, Seigneur. Toute la louange t'en sera donnée. Que ceux qui ont faim et soif trouvent à manger et à boire ce soir dans la parole. Nous le demandons au nom de Jésus, celui qui est le sujet de la révélation. Amen. Bon, maintenant, nous allons prendre le chapitre 5. Là, ce ne sont pas les sept sceaux. C'est la brèche entre les âges de l'Église et les sept sceaux. Or, il y a aussi un chapitre 6 de... Et il y a eu un chapitre 4, plutôt, de l'Apocalypse. Et là, c'est un peu ce qui va se passer après l'enlèvement de l'Église qui a été révélé. C'est-à-dire que l'Église monte au chapitre 3 de l'Apocalypse et elle ne reparaît plus avant le chapitre 19 de l'Apocalypse. Voyez ? Par conséquent, l'Église ne passe pas par la tribulation. Je sais que c'est contraire à ce qu'enseignent presque tous les docteurs à qui j'ai parlé. Mais je ne veux pas être désobligeant. Je veux être votre frère. Mais il faut que je l'enseigne tel que je le vois. Sinon, je n'arrive pas à mettre tout cela ensemble, vous voyez. Or, qu'elle monte avant la tribulation ou après la tribulation, je veux monter avec elle. Voilà l'essentiel. Donc, ces choses, nous ne faisons que les présumer. Parce que, comme je n'ai pas d'instruction, j'utilise des types. Je regarde et je vois ce qui est, ou ce qui a été dans l'Ancien Testament, qui est un type ou une ombre du Nouveau. Et cela me donne une idée de ce qu'est le Nouveau. Voyez, par exemple, si Noé, qui est entré dans l'arche avant que la tribulation commence, c'est un type. Mais avant même que Noé, vous voyez, entre dans l'arche, Enoch avait été enlevé, vous voyez, avant que quoi que ce soit se produise. De même, Lot a été appelé à sortir de Sodome avant qu'il y ait la moindre parcelle de la tribulation, de la destruction. Mais Abraham est resté en dehors tout le temps. Vous voyez, des types. Mais maintenant, nous allons lire le premier verset. J'en lirai les deux ou trois premiers versets. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur un trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de sept sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux ?» Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Quel livre ! Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le lire, ni de le regarder. Vous vous rendez compte de l'indignité ? Pas même digne de le regarder. Aucun homme, nulle part. Et l'un des anciens me dit, « Ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept sceaux. » Et je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants, au milieu des anciens, un agneau qui était là comme immolé. Il avait sept cornes et sept yeux, qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Nous allons interrompre ici pour quelques instants notre lecture d'Apocalypse 5, au verset 7 inclus. Ce livre, scellé de sept sceaux, est révélé au temps des sept tonnerres d'Apocalypse 10. Là, si vous prenez des notes, prenons donc Apocalypse 10 un instant, pour que vous puissiez le comprendre avant que nous y arrivions. Bon, ceci se passe au temps de la fin. En effet, écoutez, je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête, l'arc-en-ciel. Si vous remarquez, c'est Christ. Vous voyez, en effet, dans l'Ancien Testament, il était appelé l'ange de l'Alliance. Et il vient tout droit aux Juifs, là. Car, pour ce qui est de l'Église, c'est terminé. Voyez, très bien. Et son visage comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Vous vous souvenez de cet ange dans Apocalypse 1? Même chose. Un ange, ça veut dire un messager, et il est le messager pour Israël. Vous voyez, l'Église a été enlevée, vous voyez, là, où elle est sur le point d'être enlevée. Il vient chercher son Église. Maintenant, regardez bien. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Or, ici, il était fermé, ici est scellé, et ici, il est ouvert. Il a été ouvert depuis ce temps où il avait été scellé, ce que nous abordons ce soir. Voilà maintenant le livre ouvert. Un petit livre dans sa main, il était ouvert. Oh, et le soleil, comme des colonnes. Attendez un peu, je vais reprendre ma lecture. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Nous savons qu'il est le lion de la tribu de Juda. Là, il est l'agneau, mais ici, il est le lion. Voyez ? Quand il cria, les sept tonnerres firent entendre leur voix. Or, Jean avait été chargé d'écrire ce qu'il voyait. C'est pourquoi l'apôtre et prophète a pris sa plume pour l'écrire. Et quand les sept tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire, et j'entendis du ciel une voix qui disait, « Scelle ce qu'ont dit les sept tonnerres, et ne l'écris pas. » Bon, voilà ce que nous ne connaissons pas. Cela doit encore être révélé. Cela ne se trouve pas dans les Saintes Écritures, ce que disent ces tonnerres. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva ses mains vers le ciel. Écoutez bien là. Et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé les cieux et les choses qui sont, la terre et les choses qui sont, et qu'il n'y aurait plus de temps. Regardez bien, voici un verset auquel je veux arriver. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Bon, vous voyez, le mystère de ce livre scellé de sept sceaux sera révélé quand le message du septième ange de l'Église sera proclamé. Vous voyez, le septième ange commence à sonner de la trompette. Et voilà les messages qui ont été mis par écrit là, et nous les avons sous forme de bandes et sous forme de brochures. Donc, quand le message commencera à être proclamé, le mystère de Dieu s'accomplirait, vous voyez, à ce moment-là. Maintenant, remarquons bien, le livre du mystère de Dieu n'est pas révélé tant que le message du septième ange n'a pas été proclamé. Or, ces points seront importants dans les sceaux, j'en suis sûr, parce que tout cela doit se tenir. Or, il est écrit de façon mystérieuse, parce qu'aucun homme, nulle part, ne le connaît. Dieu seul, Jésus-Christ, vous voyez. Bon, mais c'est un livre mystérieux. C'est le livre de la rédemption. Nous verrons cela un peu plus tard. Or, nous savons que ce livre de la rédemption ne sera pas parfaitement compris. Il sera sondé au cours de six âges de l'Église. Mais à la fin, quand le septième ange commence à proclamer son mystère, il règle toutes les choses que ces hommes avaient sondées et qui étaient restées en suspens. Et les mystères descendent auprès de Dieu en tant que la parole de Dieu. Et il révèle l'entière révélation de Dieu. Alors, la divinité et tout le reste, c'est réglé. Tous les mystères, la semence du serpent et tout le reste, doivent être révélés. Maintenant, vous voyez, je ne suis pas en train d'inventer ça. C'est ainsi dit le Seigneur. Je vais vous le lire dans le livre. Quand le message du septième ange serait proclamé, le mystère de Dieu s'accomplirait tel qu'annoncé par ses saints prophètes, c'est-à-dire les prophètes qui ont écrit la parole. À la proclamation du septième âge de l'Église, le dernier âge de l'Église, toutes les choses qui étaient restées en suspens, qu'on avait sondées au cours de ces âges de l'Église, seront réglées ensemble. Et une fois que les sceaux sont brisés et que le mystère est révélé, c'est là que l'ange descend, le messager, Christ, qui pose son pied sur la terre et sur la mer, avec un arc-en-ciel au-dessus de sa tête. Maintenant, souvenez-vous, ce septième ange est sur la terre au moment de cette venue. Tout comme Jean donnait son message en même temps que le Messie est venu à l'époque. Jean savait qu'il le verrait, parce qu'il devait le présenter. Et nous comprenons bien, d'après les Écritures, dans Malachie 4, qu'il doit en venir un, semblable à Jean, un Élie, à qui la parole de Dieu peut venir. Et c'est lui qui doit révéler par le Saint-Esprit tous les mystères de Dieu et ramener la foi des enfants à la foi des pères apostoliques, rétablir tous les mystères qui avaient été sondés au cours de ces années des dénominations. Or, voilà ce que dit la parole. Je suis seulement responsable de ce qu'elle dit. Voyez, c'est écrit, c'est juste, c'est bien cela. Alors, nous voyons que ce livre scellé de sept sceaux, donc, c'est le mystère de la rédemption. C'est un livre de rédemption qui vient de Dieu. Or, tous les mystères, ce serait le moment où ils s'accompliraient à la proclamation de ce messager. Donc, ici, il y a l'ange qui est sur la terre et un autre ange. un messager puissant descend. Vous voyez, cet ange-ci était un ange terrestre, un messager terrestre. Mais en voici un qui descend du ciel avec un arc-en-ciel, une alliance. Vous voyez, ça ne peut être que Christ. Exactement comme dans Apocalypse chapitre 1, debout au milieu des sept chandeliers d'or, avec un arc-en-ciel et l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le voici qui revient au chapitre 10, après ce moment à venir, où tous les mystères doivent s'accomplir et où les sceaux doivent être brisés. Et il proclame qu'il n'y a plus de temps. Et il a dit que quand le septième ange aurait commencé à sonner de la trompette, alors le mystère s'accomplirait et ce serait l'heure où l'ange doit apparaître. C'est tout près de nous, quelque part. C'est vrai. Maintenant, remarquez, les sept sceaux retiennent le mystère du livre. Tant que nous n'aurons pas vu ce qui a été scellé par ces sept sceaux, nous ne faisons que présumer ces choses. En effet, c'est ce que je vous disais ce matin, dans mon petit message de ce matin. Dieu caché dans la simplicité. Vous voyez, nous pouvons être sûrs de passer à côté, à moins que cela soit absolument, véritablement révélé et confirmé par le Saint-Esprit. Voyez, si le prophète se lève et vous dit que ceci veut exactement dire cela, et que Dieu ne le confirme pas, oubliez ça. Voyez, mais il faut que Dieu confirme chaque déclaration, chaque chose, pour qu'elle soit juste. Voyez, alors ces enfants vont surveiller ces choses, vous voyez, et ils seront vigilants. Remarquez, les sept sceaux sur le livre, ces sept sceaux scellent le livre. Voyez, le livre est absolument scellé. Vous le voyez? Le livre est absolument un livre scellé jusqu'à ce que les sept sceaux soient brisés.
It is sealed up with seven seals.
Il est scellé de sept sceaux. Or, ça, c'est différent des sept tonnerres. Voyez, il s'agit ici de sept sceaux sur le livre. Et le livre ne... Les sceaux ne seront pas déliés avant le message du septième ange. Voyez? Donc, nous présumons, mais la véritable révélation de Dieu sera rendue parfaite quand cela sera proclamé, la vérité confirmée. Maintenant, c'est exactement ce que dit la parole. Le mystère s'accomplirait en ce temps-là. Et ce livre scellé de sept sceaux, rappelez-vous, ici, dans Apocalypse chapitre 5, il était fermé. Et, dans Apocalypse chapitre 10, il est ouvert. Et maintenant, nous allons voir ce que dit le livre sur la façon dont il a été ouvert. Et ce n'est divulgué que lorsque l'agneau prend le livre, qu'il brise les sceaux et qu'il ouvre le livre. Voyez, l'agneau doit prendre le livre. C'est caché. Maintenant, souvenez-vous, aucun homme dans le ciel, aucun homme sur la terre, qu'il soit pape, évêque, cardinal, surveillant général, qui qu'il soit, ne peut briser ses sceaux ni révéler le livre, l'agneau seul. Et on a sondé, on a présumé, on a fait des faux pas, on s'est interrogé, et c'est pour cette raison qu'on est tous dans une telle confusion. Mais nous avons la promesse divine que ce livre de la rédemption sera parfaitement ouvert par l'agneau et que les sceaux en seront rompus par l'agneau dans les derniers jours, ceux où nous vivons maintenant. Et ce n'est divulgué que lorsque l'agneau prend le livre et qu'il en brise les sceaux. En effet, souvenez-vous, le livre était dans les mains de celui qui était assis sur le trône. Et l'agneau vient à celui qui est assis sur le trône. Et il prend le livre de sa main droite. Il prend le livre. Oh, ça, c'est profond. On va essayer de résoudre ça si on le peut, avec l'aide du Saint-Esprit. Alors, nous comptons sur lui. Et nous verrons plus tard que ça, c'est au temps de la fin, quand il n'y a plus de temps. Aucune dénomination n'a le droit d'interpréter le livre. Aucun homme n'a le droit de l'interpréter. C'est l'agneau qui l'interprète. Et l'agneau est celui qui le prononce. Et l'agneau fait connaître la parole en confirmant et en faisant vivre la parole. Voyez, c'est exactement ça. Remarquez, et ce n'est révélé que lorsque ce livre n'est révélé que lorsque les âges de l'Église et les âges des dénominations sont terminés et qu'il n'y a plus de temps. Vous le voyez? Il n'est révélé qu'une fois que les âges de l'Église et les âges des dénominations sont terminés. C'est pour cette raison qu'il y a un tel méli-mélo ce soir. Vous voyez, ils dénichent une petite doctrine et ils partent au courant de ce côté-ci en disant « Ce qu'il faut, c'est ceci. » Un autre déniche une autre doctrine. Il part en courant de ce côté-là en disant « Ce qu'il faut, c'est ceci. » Et chacun construit une dénomination d'après cela, au point qu'on a des centaines de dénominations. Mais, malgré tout ça, en voyant tant de confusion, les gens se demandent « La vérité, c'est quoi ?» Voilà exactement où on en est aujourd'hui. Mais alors, il fait la promesse que, quand ce temps aura pris fin, la voix du septième ange retentira. Et c'est alors que le livre sera révélé, vous voyez, à ce moment-là. Maintenant, que personne ne dise que ces gens-là n'ont pas été sauvés. Seulement, les mystères, ils ne pouvaient pas les comprendre. Comment Dieu peut être trois et pourtant un? Comment les Écritures peuvent dire de baptiser au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, pour faire volte-face et dire de baptiser au nom de Jésus? Voyez? Oh, tant de choses! Comment Ève, en mangeant une pomme, peut-elle avoir causé la ruine du monde entier? Voyez, comment ces choses-là sont-elles possibles? Mais ces mystères, il nous est promis qu'ils seront révélés au temps de la fin. Ce sont des petites choses restées en suspens que ces vaillants combattants qui sont venus, comme Irénée, Martin, Saint-Martin, Polycarpe et les autres, Luther, Wesley et tous ceux-là. Voyez, ils sont venus et ils ont vécu juste assez longtemps pour apporter une certaine lumière et la faire briller. Mais ils ont laissé beaucoup de choses dans l'obscurité. Ensuite est venu l'âge pentecôtiste, comme l'âge luthérien, et eux aussi ont pris une tangente. Mais encore là, c'est bien. Ne dites pas qu'ils n'étaient pas dans le vrai. Ils l'étaient. Seulement, il reste des choses en suspens qu'on ne peut pas expliquer. Mais c'est donc pourquoi les sceaux n'ont pas été brisés pour révéler parfaitement ces choses. Voyez? Mais c'est dans le dernier âge que tous ces mystères doivent être résolus et communiqués. Et les sceaux doivent être ouverts par l'agneau et révélés à l'Église. Et alors, il n'y a plus de temps. Voyez, comme c'est merveilleux. Donc, le livre, est un livre de rédemption. En effet, après, il continue, et nous parlerons un peu plus tard de l'entrée des 144 000 et tout. Bien, ceux-là sont des Juifs. Bon, maintenant, Paul, on va lire un peu. J'ai quelques passages de l'Écriture, là, et je trouve que nous devrions les lire. Prenons donc ensemble Paul dans Éphésiens 1. Je vois que beaucoup écrivent, ils ont leur carnet et ils notent les passages de l'Écriture. Ils les marquent dans leur Bible pour avoir l'enchaînement. Alors ça c'est très bien. J'aime vous voir faire cela. Et ensuite, vous pouvez rentrer chez vous et l'étudier. Voyez? Et si vous l'étudiez vous-même, alors vous le comprendrez mieux. Voyez? Alors étudiez-le et demandez à Dieu de vous aider à comprendre. Maintenant, lisons un passage de l'Écriture que j'ai noté ici. Éphésiens 1, 13 et 14. Donc, en lui, nous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité et l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Voyez? Maintenant, pendant que nous avons nos Bibles ouvertes, nous allons... Vous voyez, ici, le Saint-Esprit lui-même est un sceau. Le Saint-Esprit est un sceau. Et un sceau signifie quoi? Une œuvre terminée. Le Saint-Esprit, qui est un sceau pour l'individu, et cet individu, quand il reçoit le Saint-Esprit, le temps de ses gémissements est fini. Vous voyez? Parce que c'est une œuvre terminée. Par exemple, autrefois, je travaillais pour la compagnie de chemin de fer et nous chargions des wagons de marchandises avec des boîtes de conserve et différentes choses qui venaient de la conserverie. Mais avant que le wagon puisse être scellé, il fallait que l'inspecteur passe pour voir si ce wagon était chargé correctement. Sinon, à la première secousse, toute la marchandise s'éparpillerait et serait abîmée. Et la compagnie de chemin de fer en serait tenue pour responsable. Donc, cet inspecteur vérifiait pour voir si tout était bien en place. Sinon, il condamnait le wagon. Et alors, il nous fallait tout recommencer tant que l'inspecteur n'était pas satisfait. Ensuite, quand l'inspecteur est satisfait, il ferme la porte. C'est l'inspecteur qui ferme la porte. Et l'inspecteur y met un sceau. Et alors personne ne peut briser ce sceau tant qu'il n'est pas arrivé à destination. Et c'est ce que fait le Saint-Esprit. Voyez, il va et il inspecte. C'est pour ça que vous ne pouvez pas avoir ces choses et... Vous dites, j'ai parlé en langue et j'ai crié et j'ai dansé par l'Esprit. Ça n'a aucun rapport, voyez. Le Saint-Esprit inspecte cette personne jusqu'à ce qu'ils soient parfaitement satisfaits et qu'ils sachent qu'ils y sont. Alors, ils sont scellés pour leur destination éternelle. Il n'y a absolument rien qui puisse briser ce sceau. La Bible, vous qui prenez les versets en note, Éphésiens 4, 30 dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de votre rédemption. » Retenez ce mot « rédemption », vous voyez, jusqu'au jour où le livre de la rédemption est révélé et où le Rédempteur vient réclamer son bien. Rien ne peut le briser. Voyez, ne l'attristez pas. Restez, faites des choses qui sont agréables à Dieu, parce que le livre est scellé, là, et vous êtes scellé. Le Saint-Esprit lui-même est le sceau. Un sceau signifie, maintenant ces mots-là, je les ai trouvés dans le dictionnaire. Un sceau signifie une œuvre terminée. Et quand le septième sceau est brisé, le mystère de Dieu, qui est scellé dans ces sceaux mystérieux, est mené à terme. Jusqu'au jour où ce sceau est brisé, et alors, ce qu'il y a là, à l'intérieur, est révélé. Si cet homme se demande ce qu'il y a à l'intérieur de ce wagon de marchandises, et qu'il dise, il devrait y avoir telle et telle chose, il devrait y avoir, il présume, mais quand le sceau est brisé, et que la porte est ouverte, alors on voit dedans, et on voit exactement ce qu'il y a à l'intérieur. Vous le voyez? Et cela ne se produira qu'au temps de la fin. Autre chose que signifie un sceau, c'est la propriété. Vous voyez, le sceau porte une marque qui indique un droit de propriété. Quand vous avez été racheté par le sang de Jésus-Christ et scellé du Saint-Esprit, vous n'appartenez plus au monde ni à rien de ce monde. Vous êtes la propriété de Dieu. Il y a autre chose qu'un sceau est. C'est une sécurité. Le sceau signifie que vous êtes en sécurité. Maintenant, Pour vous qui ne croyez pas à la sécurité éternelle, je ne sais pas, vous voyez. Mais bon, mais un sceau indique qu'on est en sécurité jusqu'à sa destination. Malheur à l'individu qui essaierait de briser ce sceau. Et le sceau du Saint-Esprit ne peut pas être brisé. Vous m'avez entendu parler des gens qui disent « Le diable m'a fait faire ceci ». Non, non, ce n'est pas le diable. C'est que vous n'étiez pas scellé à l'intérieur. En effet, quand vous êtes scellé à l'intérieur, lui est scellé à l'extérieur. Oui, voyez, ce qu'il y a, c'est que vous êtes allé vers lui. Oui, il ne pouvait pas entrer pour vous atteindre, parce que le seul moyen qu'il aurait d'entrer, c'est de passer par le même processus que vous. Il faudrait qu'il soit sauvé, sanctifié et rempli du Saint-Esprit. Et à ce moment-là, il serait votre frère. Alors, vous voyez, alors il ne l'a pas fait. Non, non, vous vous êtes seulement rendu jusqu'à la frontière et vous êtes revenu. Vous convoitiez les choses du monde. Vous n'êtes jamais allé jusqu'au bout, jusqu'en Canaan, vous voyez, de l'autre côté du Jourdain, la mort à soi-même, voyez. Maintenant, remarquez là, ce livre est scellé. Et vous êtes scellé avec le livre jusqu'au jour de la rédemption. Et aussi dans Romains 8, 22 et 23. Lisons-le, comme ça nous aurons une toile de fond, et je pense que nous le comprendrons un peu mieux si chaque personne le lit elle-même. Je vous donne ici quelques références bibliques, et nous pouvons les regarder, vu qu'il est encore tôt. Donc, 8, Romains 8, 22, pour commencer. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elles seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Oh là là, là là, n'est-ce pas réjouissant pour nous, les vieux? Ça devrait tous nous réjouir, en attendant cette heure. D'après ce que nous en comprenons, ceci aura lieu à la première résurrection. Voyez, la nature soupire, nous soupirons, tout soupire. En effet, nous nous rendons compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et si vous soupirez et que vous attendez cela, c'est uniquement parce qu'une vie nouvelle est entrée ici. Elle parle d'un monde nouveau. C'est comme mon épouse, il n'y a pas longtemps, nous étions ensemble au supermarché ici. Et j'ai dit, nous avons vu quelque chose de bizarre, une femme qui portait une robe. Ça faisait tellement bizarre, vous voyez, la plupart d'entre elles ne portent pas de robe, vous voyez. Et pour une raison ou pour une autre, elles sont distraites, elles sortent sans robe. Et donc elles sont volontairement distraites. Et donc, mesdames elle a dit, « Bill, pourquoi ça ? » a-t-elle dit. « Oh, j'ai dit, c'est l'esprit de la nation, voilà tout. » Et j'ai dit, « Quand on va en Allemagne, ils ont un certain esprit. En Finlande, ils ont un esprit national. Quand on vient en Amérique, nous avons un esprit national. Notre esprit national, c'est celui de la rigolade, des plaisanteries. Savez-vous pourquoi? Nous avons été fondés sur la doctrine des apôtres. Nous avons été fondés sur la conduite de grands hommes comme Washington, Lincoln. Mais nous nous sommes éloignés de ce fondement. Et nous savons ce qui nous attend. Nous savons que notre nom est écrit sur une bombe atomique. Nous savons que l'esclavage nous attend. Ne vous faites pas d'illusions. Ça me fait penser à certains de ces humoristes qui sont là à débiter leurs plaisanteries et à faire toutes sortes de singeries. Et les femmes qui se conduisent comme elles le font. Et avec des hommes. Ça me fait penser à un petit garçon qui traverse le cimetière en sifflotant pour essayer de se convaincre qu'il n'a pas peur. Bien sûr qu'il a peur. Voyez, il ne trompe personne. C'est justement pour ça qu'il sifflote. Voyez, il essaye de se dire qu'il n'a pas peur, mais il a peur. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Mais, oh, quel espoir béni pour le croyant qui lève les mains, car notre rédemption approche. Quand il voit ces choses qui commencent à arriver, c'est un moment glorieux pour le croyant. Maintenant, ces choses-là, nos corps qui soupirent, avez-vous déjà remarqué combien un arbre lutte pour survivre? Il veut vivre. Et vous remarquerez un animal, au moment de la mort, comme il se débat. Vous remarquerez l'être humain, tout, la nature soupire. Nous, nous soupirons en nous-mêmes, voyez? Nous savons qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ces versets nous montrent que quelque chose a été perdu, et pour l'homme, et pour la terre. La création sous toutes ses formes a perdu quelque chose. En effet, cette parole inspirée nous montre qu'elle soupire en raison de quelque chose. On ne soupire pas sans raison. Comme je le disais à propos de l'encre, il y a une raison. C'est pareil quand il s'agit de prier pour les malades. Tant qu'on n'a pas trouvé la cause, je connais le remède, mais je dois trouver la cause. C'est pour ça que les visions sont si nécessaires et qu'elles jouent un rôle si important. Elles révèlent le secret du cœur. Elles disent à la personne où elle a fait son erreur et ce qu'elle doit faire. Voyez? Peu importe la quantité de médicaments que vous prenez, la quantité d'huile que vous leur versez sur la tête, ou combien on peut crier sur vous, s'il y a quelque chose de faux, il ne bougera pas de là. J'ai dit « il », c'est-à-dire Satan. Vous voyez, aujourd'hui, aussi avancé que nous soyons en médecine, nous ne connaissons encore rien de ces choses-là. Vous dites « il a un cancer ». Eh bien, ça ne veut rien dire. Ça ne fait qu'en donner le nom. C'est le terme médical qui le désigne, le cancer. Ça n'a aucun rapport avec ce que c'est. C'est le nom qu'on lui donne. On lui donne simplement ce nom-là, le cancer. Mais, en fait, ce que c'est, si on l'analyse, c'est un démon. Or, on dit le péché. C'est simplement qu'on appelle ça le péché. Analysez-le. Qu'est-ce que le péché? Bien des gens disent, c'est boire, c'est commettre adultère. Non, non, ça, ce sont les attributs du péché. Vous voyez? Ce sont les effets du péché. Vous voyez? Mais le vrai péché, c'est l'incrédulité. C'est comme ça. C'est comme ça qu'on le nomme, qu'on le désigne. Si vous êtes un croyant, vous ne faites pas ces choses. Mais peu importe combien vous essayez de vous rendre saint et combien vous essayez d'être religieux, si vous faites ces choses, vous êtes un incroyant. Ça, c'est biblique. Donc, quelque chose a été perdu et gémit, cherche à revenir, à retrouver son état premier. Pouvez-vous imaginer quelqu'un qui serait tombé quelque part au fond d'une fosse profonde et qui serait là à se démener, en train de grimper, de se hisser? Il faut qu'il trouve un moyen de sortir de cette fosse. Ils ne sont pas dans leur état premier. Alors, ils crient comme des déchaînés, ils griffent les murs, ils font du tapage, ils font n'importe quoi. Ils gémissent parce qu'ils veulent retrouver leur état premier. C'est la même chose quand une personne est frappée de maladies, de maux de toutes sortes. Il fut un temps où ils n'étaient pas dans cet état, mais ils gémissent. Pourquoi? Ils ne sont pas bien pourtant. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors ils gémissent, ils cherchent à revenir là où ils étaient quand ils étaient en bonne santé. Et quand la nature et les gens, comme le dit la Bible, soupirent, ça montre qu'il y a quelque chose, qu'ils ne sont pas dans l'état dans lequel ils devraient être. Ils sont tombés de quelque part. Ça, on a besoin de personne pour nous l'interpréter, voyez? En effet, bien sûr, nous savons que c'est de la vie éternelle qu'ils sont tombés. Et ils ont perdu leur droit à la vie éternelle par la chute d'Adam et Ève. qui, dans le jardin d'Éden, sont tombés de la vie éternelle dans la mort. Et ils ont entraîné avec eux toute la nature qui leur était assujettie. Avant Adam, jamais un arbre ne mourait. Avant Adam, un animal n'aurait pas eu à mourir. Et il n'y a qu'une chose qui ne peut pas mourir, c'est Dieu, parce qu'il est éternel. Et le seul moyen pour nous d'être gardés de la mort, c'est d'avoir en nous la vie éternelle, d'être des fils et des filles de Dieu. Mais en mourant, comme je le disais dans le message de ce matin, pour pécher, nous avons vendu notre droit d'aînesse et nous avons traversé l'abîme. Or, de cet autre côté de l'abîme, nous sommes hors de la portée de Dieu. Et bien sûr, Adam, quand il est tombé dans la mort, il a propagé la mort à toute la création. Or, il lui avait été donné le libre arbitre. Cela leur avait été donné, tout comme à nous, pour pouvoir faire un choix. Or, Adam et Ève, au commencement, avaient devant eux un arbre du bien et du mal. Et ce même arbre est placé devant chacun de nous, sans exception. Vous voyez, Dieu ne fait pas pour Adam ou pour Ève. Vous dites, mais c'est de leur faute. Non, plus maintenant. C'est de votre faute à vous. Vous ne pouvez pas mettre la faute sur Adam maintenant. Vous devez la mettre sur vous-même, parce que le bien et le mal sont placés devant vous. Les conditions sont les mêmes pour nous que pour Adam et Ève. Mais vous voyez, quand nous sommes rachetés, nous ne voulons plus notre choix à nous. Nous voulons son choix. Voyez? Voyez? Or, Adam et Ève, ils voulaient leur choix à eux. Ils voulaient voir ce que c'était que d'avoir de la sagesse. Alors ils ont sondé la chose, ce qui a causé la mort. Or, quand un homme a été racheté, l'érudition, ça ne lui dit plus rien. Les choses du monde, la sagesse du monde, ça ne lui dit plus rien. Il ne veut plus faire de choix du tout. Christ a été son choix, un point c'est tout. Il est racheté. Il ne veut plus du tout se conduire lui-même. Il ne veut pas que qui que ce soit lui dise où il doit aller et ce qu'il doit faire. Il attend simplement et il trouve le choix de son Créateur. Voyez, ensuite, il y va au nom de son Créateur quand le Créateur lui dit d'y aller. Voyez, mais l'homme qui est en quête de sagesse, voici ce qu'il cherche. Eh bien, cette paroisse-ci est pas mal, mais on m'offre plus d'argent là-bas, alors j'irai là-bas. Voyez, vous voyez la sagesse. Maintenant, quand Adam a péché d'avoir écouté le raisonnement de sa femme au lieu de s'en tenir à la parole de Dieu, voilà ce qui a fait pécher Adam. Sa femme a raisonné avec Satan, puis elle a présenté le produit à Adam, et Adam a abandonné la parole et a tout vendu. Il a aussi perdu son héritage quand il a perdu la communion qu'il avait et son droit à la vie. Souvenez-vous, le jour où tu en mangeras, ce jour-là tu mourras. Et quand il a perdu sa vie, il a aussi perdu son héritage dans la vie, parce qu'il avait autorité complète et suprême sur la terre. Il était Dieu de la terre. Dieu est le Dieu de l'univers, partout. Mais son fils avait cette terre sous sa propre autorité. Il pouvait prononcer, il pouvait donner des noms, il pouvait déclarer, il pouvait arrêter la nature, il pouvait faire tout ce qu'il voulait. Voyez, mais quand il a fait cela, il a perdu son héritage. Ainsi, Adam pouvait dire que la montagne qui est ici se transporte là-bas. Et c'était fait. Adam pouvait dire que l'arbre qui est ici se déracine et soit planté là-bas. Et c'était fait. Voyez, en effet, il détenait l'autorité complète et suprême en tant que Dieu mineur au-dessous de Dieu notre Père, parce qu'il était un fils de Dieu. Maintenant, n'est-ce pas qu'on pourrait s'arrêter là-dessus un instant et commencer une vraie prédication? Voyez, oh, alors, si le sang a purifié et rétabli cela, qu'en est-il de maintenant? Voyez, regardez ce que ce Fils de Dieu, le deuxième Adam, a fait. Voyez, et il a dit, « Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. » Voyez, Adam a perdu son héritage, la terre. Donc, elle est passée de ses mains à celle de celui auquel il a tout vendu, Satan. Il a vendu sa foi en Dieu pour les raisonnements de Satan.
Therefore,
Par conséquent, sa vie éternelle, son droit à l'arbre de vie, son droit à la terre, ça lui appartenait. Et il a perdu tout ça aux mains de Satan. Il l'a fait passer de ses mains à celles de Satan. Donc, maintenant, elle a été... La revoilà maintenant. Elle a été polluée. Et la postérité d'Adam a détruit l'héritage qu'Adam aurait dû avoir, c'est-à-dire la terre. C'est vrai. Vous voyez, la postérité d'Adam. L'autre jour, à Tucson, où j'habite, je me suis arrêté et je parlais à quelqu'un sur le haut de la montagne en regardant en bas. J'ai dit, « Qu'en penses-tu ? Il y a 300 ans, le vieux Papago a traversé la région sur son travois avec sa squaw et ses enfants assis à l'arrière. Et il s'est arrêté quelque part. Et il vivait paisiblement. Il n'y avait ni adultère, ni whisky, ni jeu d'argent, ni rien de tout cela parmi eux. Il vivait proprement. Toutes les nuits, les coyotes longeaient les lits des ruisseaux. Ils traversaient Tucson, ici, en poussant des hurlements. Et les prosopies et les cactus fleurissaient partout sur la rive. Et Jéhovah, en regardant ça, il a dû sourire. Mais l'homme blanc est arrivé, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a arraché les cactus, il a pollué le pays avec des canettes de bière et des bouteilles de whisky. Il a détruit la moralité de la nation. La seule façon pour lui de se débarrasser de l'Indien, ça a été d'exterminer sa nourriture, le bison. L'autre jour, je lisais, j'étais à Tombstone, au musée, et je regardais les photos de Geronimo. Peut-être que beaucoup d'entre vous pensent que Geronimo était un renégat. Moi, je trouve qu'il était un Américain authentique. Il ne faisait que combattre pour ce qui était juste, que Dieu lui avait donné. Un pays, une nation, un endroit pour vivre. Je ne le blâme pas. Et ces soldats blancs, ils sont arrivés là et ils se sont emparés du pays par la force. Ils les ont exterminés comme des mouches. Il y avait là la photo originale des quartiers médicaux de Geronimo, de son hôpital. C'était deux ou trois couvertures étendues sur un peu de prosopie. Et les blessés, de vrais, d'authentiques Américains, des Indiens qui combattaient pour leurs droits reçus de Dieu. Et Geronimo, il était là, avec son bébé sur la hanche. Il regardait ses propres guerriers en train de perdre leur sang, de mourir, sans pénicilline, ni rien, aucun moyen de les aider. D'authentiques Américains, placés là par Dieu. Et on l'appellerait un renégat? Moi, je l'appelle un gentleman. Jamais Cochise ne se serait rendu. C'était un vieillard. Mais l'armée américaine a aligné ses troupes. Ils allaient là-bas et ils tuaient le bison. Ils organisaient des expéditions. Et Sharp a inventé le fusil à bison. Ils allaient là-bas et ils disaient « Oh, j'ai eu une bonne journée aujourd'hui !» a tiré depuis un wagon de marchandises ou un wagon de passagers. Il disait « J'en ai tué 40 aujourd'hui. 40 bisons, ce qui aurait pu nourrir toute la tribu d'Indiens pendant au moins 2 ans. Et qu'est-ce qu'il faisait avec? Il les laissait là, dans le désert. La vieille charogne enflée qui remplissait la contrée et empestait la contrée. Ce sont les coyotes qui la mangeaient. Quand l'Indien tuait un bison, il y avait une cérémonie religieuse. Il prenait les sabots du bison et il les gardait pour en faire des casseroles. Ils en mangeaient la viande et même la viande des entrailles. Il prenait toute la viande et il la suspendait pour la faire sécher. Il faisait sécher la peau et ils en faisaient des vêtements et des tentes. Il n'y avait rien. Mais quand l'homme blanc est arrivé, le renégat, c'est l'homme blanc. Le scélérat, c'est lui. Alors il est arrivé, il a exterminé les bisons et il a affamé les Indiens. Tout homme qui se respecte se battrait pour défendre les droits qu'il a reçus de Dieu. Ce qu'ils ont fait à l'Indien d'Amérique, c'est une tache sur le drapeau américain. Après tout, cela lui appartenait. Que diriez-vous si le Japon ou disons la Russie arrivait et qu'il disait « Sortez d'ici, allez-vous-en » et qu'il nous faisait subir, à nous et à nos enfants, le même traitement que celui que nous avons fait subir aux Indiens. Mais souvenez-vous-en, nous avons semé, et maintenant, nous allons récolter. C'est la loi de Dieu. Vous savez, il y a un temps pour planter et un temps pour récolter. Je trouve que que ce n'est vraiment pas bien. Oui, monsieur. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? La postérité corrompue d'Adam a pollué et complètement détruit le pays. Savez-vous que la Bible dit? Et cette postérité corrompue d'Adam, pour avoir fait ça, Dieu va les détruire. Voulez-vous le lire? Voyons un peu. Je l'ai noté ici. Prenez Apocalypse chapitre 11 et on va voir. Prenez dans Apocalypse le chapitre 11 et on va voir ce que Dieu a dit de ceux qui détruisent la terre. Le chapitre 11 et prenons le verset 18. Je crois que c'est ça. 11, 18. Voilà.
And the nations were angry and thy wrath is come. Now what's God's wrath?
Les nations se sont irritées, et ta colère est venue. Maintenant, regardez la colère de Dieu. Et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits comme les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Récolter ce qu'ils ont semé. Certainement, quand vous voyez le péché courir les rues, combien, en ce dimanche soir, combien d'adultères vont se commettre dans cette ville ce soir? Combien de femmes vont briser leurs vœux de mariage dans ce trou perdu, ici, qu'on appelle Jeffersonville? Combien de cas d'avortement, d'après vous, est-ce qu'on enregistre à Chicago en 30 jours? Entre 25 et 30 000 par mois, sans compter ceux qui ne sont pas déclarés. Combien de whisky boit-on dans la ville de Chicago? D'après vous, qu'est-ce qui peut se passer dans une nuit à Los Angeles? Combien de fois a-t-on pris le nom du Seigneur en vain dans la ville de Jeffersonville aujourd'hui? Est-ce mieux maintenant, ou si c'était mieux quand George Roger Clark est arrivé sur son radeau? Vous voyez, nous avons complètement pollué la terre avec nos saletés, et Dieu détruira ceux qui détruisent le monde. Dieu l'a dit. J'ai toujours cru qu'il y avait quelque chose au fond de moi qui me faisait aimer aller dans les montagnes et regarder les choses telles que Dieu les a faites. Je déteste la Floride, où ils ont ces palmiers artificiels. Et, oh là là, j'aime mieux voir les crocodiles en train de donner des coups de queue dans la nature sauvage que de voir toute cette comédie et tout ce qui se fait à Hollywood et tout ce clinquant là et cette bande d'ivrogne. Et, oh là là, je me dis, un jour, oui. Mais rappelez-vous, la Bible nous a déclaré dans Matthieu chapitre 5 que ceux qui sont doux hériteront la terre. C'est vrai, ceux qui sont doux et humbles hériteront la terre. Jésus a dit, heureux ceux qui sont doux, ceux qui sont simples, qui ne cherchent pas à être quelqu'un d'important, ils hériteront la terre. Jésus l'a dit. Oui, donc ils l'ont pollué et Dieu va les détruire. Mais ceux qui sont doux hériteront la terre après qu'elle aura été purifiée. Maintenant, oh là là, maintenant le titre de propriété confisqué est maintenant entre les mains du propriétaire originel. Le Dieu Tout-Puissant, le titre de propriété qui donne droit à la terre et à la vie éternelle, quand Adam l'a perdu, les mains sales de Satan ne pouvaient pas le prendre. Alors il est retourné à son propriétaire originel, Dieu lui-même. Nous allons le voir dans une minute. Il est là, assis sur le trône, et il a dans sa main le titre de propriété. Oh, je me sens religieux, là. Le titre de propriété qui donne droit à la vie éternelle. Le titre de propriété incontestable qui donne droit à la vie éternelle. Quand Adam l'a perdu, en choisissant la sagesse au lieu de la foi, il est retourné dans les mains du propriétaire, le Dieu Tout-Puissant. Comme c'est glorieux. Bien, En attendant, qu'est-ce qu'il fait? Il est dans les mains de Dieu, en attendant que les droits à la rédemption se fassent valoir. Il a pourvu d'un moyen de rédemption. Il a pourvu d'un chemin de retour aussi. Un jour, le Rédempteur doit le reprendre. Vous voyez où nous en arrivons maintenant? Nous allons observer ce personnage qui est assis sur le trône. Bien, en attendant que les droits à la rédemption se fassent valoir, sa rédemption. Qu'est-ce que ce livre de la rédemption, ce titre de propriété, incontestable? Vous dites, incontestable? Incontestable, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une recherche approfondie a été faite, qu'on est remonté jusqu'à son origine. Comme cette petite goutte d'encre de ce matin, quand elle est tombée dans le décolorant, elle est retournée jusqu'à son origine. Et quand le péché était confessé et qu'il est tombé dans le sang de Jésus-Christ, oh là là, ça produit un titre incontestable. Vous retournez tout droit au Créateur. Vous devenez un fils de Dieu. Le titre de propriété incontestable est entre les mains du Tout-Puissant. Oh là là, sa rédemption signifie la possession légale complète de tout ce qui a été perdu par Adam et Ève. Oh là là! Quel effet cela devrait faire à un chrétien né de nouveau? La possession légale du titre incontestable, du titre de propriété qui donne droit à la vie éternelle, signifie que vous possédez tout ce qu'Adam et Ève ont perdu. Qu'est-ce que vous dites de ça, frère? La possession de cet acte. Adam ne pouvait pas satisfaire aux exigences de la rédemption. Après qu'il a vu qu'il l'avait perdu, il avait péché, il s'était séparé de Dieu et il était de ce côté-ci de l'abîme. Alors, il ne pouvait pas le racheter. Il ne pouvait absolument pas le faire parce qu'il avait lui-même besoin de rédemption. Alors, il ne pouvait pas le faire. Mais la loi exigeait un parent rédempteur. La loi de Dieu exigeait un parent rédempteur. Si vous voulez le noter, parent rédempteur, ça se trouve dans Lévitique 25. Nous n'aurons pas le temps d'étudier tout cela à fond, parce que, vous savez, chaque passage prendrait une soirée à lui seul. Vous voyez? Mais la loi de Dieu admettait un substitut. Maintenant, qu'est-ce qui se serait passé si Dieu n'avait pas offert d'accepter un substitut? Mais l'amour l'a contraint à le faire. En effet, l'homme n'avait pas de moyen de revenir. Et il n'y avait aucun moyen pour lui de revenir. Il était fini. Mais la grâce de Dieu a satisfait à ce parent rédempteur en la personne de Jésus-Christ. La loi l'exigeait. La grâce a satisfait à ses exigences. Oh, grâce infinie de notre Dieu! La loi de Dieu exigeait un substitut innocent. Et qui était innocent? Tous les hommes étaient nés sexuellement, par le sexe, tous. Et le seul qui ne l'était pas, il avait perdu les droits à la vie éternelle et à être roi sur la terre. Oh, quand je pense à ce passage de l'Écriture, car tu nous as rachetés pour Dieu, et ainsi nous régnerons et serons rois et sacrificateurs sur la terre. Oh là là, quoi donc le parent rédempteur? Oh, quelle belle histoire on pourrait raconter ici. Remarquez, la loi exigeait que ce soit un parent rédempteur qui rachète un bien perdu. La grâce a satisfait à cette exigence en la personne de Jésus-Christ. Un parent devait naître de la race humaine. Or, comment est-ce que ça nous aurait été possible à nous, alors que chaque homme qui est né doit... Celui qui ne peut pas voir que c'est un acte sexuel qui a été commis là-bas, eh bien, il est complètement aveugle, vous voyez. parce que chaque homme qui est né d'une femme. Et Dieu exigeait un parent rédempteur. Et il fallait qu'il soit un être humain. Oh là là, que faire alors? La loi exigeait un parent rédempteur. Or, il ne pouvait pas prendre un ange. Il lui fallait un homme, parce que nous n'avons aucun lien de parenté avec les anges. Nous sommes parents entre nous. L'ange n'est jamais tombé. C'est un être d'une espèce différente. Il a un corps différent. Il n'a jamais péché ni rien. Il est différent. Mais la loi exigeait un parent rédempteur. Et tous les hommes de la terre étaient nés par le sexe. Maintenant, vous devez bien le voir, que c'est de là que c'est venu. C'est là que le péché a commencé. Alors, vous voyez ce qu'il en est là? C'est là qu'elle entre en ligne de compte, votre semence du serpent. Voyez? Maintenant, remarquez, exigeait un parent rédempteur. Et le parent rédempteur devait naître de la race humaine. Nous voilà donc dans une impasse. Mais je vais vous faire entendre le son de la trompette. La naissance virginale a fourni le produit. Amen. La naissance virginale a fourni notre parent rédempteur. Nul autre que le Dieu Tout-Puissant, devenu Emmanuel, l'un d'entre nous. Emmanuel, le parent rédempteur, était trouvé. Vous voyez de quelle façon Dieu fixe l'exigence? Et il n'y a rien que nous puissions faire. Mais voilà la grâce qui intervient, qui éclipse la loi et qui fournit le produit. Amen. Oh, quand vous arriverez à la maison, quand j'aurai ma petite cabane là-bas, comme frère Neville le chante si bien, quand un de ces matins, vous entendrez ce chant là-bas, grâce infinie de notre Dieu, qui un jour m'a sauvé, alors dites, gloire à Dieu, notre brave frère Branham y est arrivé. Le voilà, vous voyez? Oui. Oh, ma vie fut complètement changée au moment où j'ai cru. Depuis ce jour, de tous les dangers, sa grâce m'a secouru. Attendez un peu que nous y arrivions dans un instant. Oh là là! Maintenant, regardez, le livre de Ruth nous brosse un magnifique tableau de cela. Comment Boaz et Naomi avaient perdu sa propriété. Vous savez, vous m'avez entendu prêcher sur ce sujet, n'est-ce pas? Si vous m'avez entendu prêcher cela, levez la main. Donc, vous comprenez, voyez-vous? Il fallait que Boaz devienne un rédempteur, et il était le seul qui le pouvait. Il fallait qu'il soit parent, proche parent. Et, en rachetant Naomi, il a obtenu Ruth. C'était Jésus. Boaz était le type du Christ. Et, en rachetant Israël, il a obtenu l'épouse des nations. Donc, vous voyez, c'est vraiment très beau. Nous avons cela quelque part sur bande, j'en suis sûr, si vous aimeriez la voir. Maintenant, remarquez. Donc, il fallait qu'il soit un parent. Alors, vous voyez, un ange ne pouvait pas le faire. Un homme ne pouvait pas le faire. Il fallait que ce soit un homme, mais il ne pouvait pas être né d'une femme par un acte sexuel. Aussi, dans la naissance virginale, le Saint-Esprit a couvert Marie de son ombre. Par conséquent, Jésus n'était pas un juif. Jésus n'était pas un non-juif. Jésus était Dieu. Exactement. Son sang n'est venu d'aucun acte sexuel. Il était le sang sacré de Dieu par une création. Alors, nous ne sommes pas sauvés par du sang juif et nous ne sommes pas non plus sauvés par du sang non-juif. Nous sommes sauvés par le sang de Dieu. C'est conforme à la Bible. C'est ce qu'elle dit. Nous sommes sauvés par... Alors, vous voyez, Jésus était Dieu. Il n'était pas du tout une troisième personne, une quatrième personne, une deuxième personne. Il était la personne. Il était Dieu, voyez-vous. Il était Dieu Emmanuel. Dieu est descendu de la gloire. Il s'est révélé. J'aime cette histoire de Booth Cleburne, cet hymne magnifique. Descendu de la gloire. C'est une merveilleuse histoire. Mon Sauveur est venu, et son nom est Jésus. Frappé et humilié, pour moi, il fut maltraité. Homme de douleur, d'agonie et de larmes. Oh, quelle condescendance! Il nous apporta la rédemption, au plus sombre de la nuit, sans même une lueur d'espoir. Notre Dieu, plein de grâce et de tendresse, mis de côté sa splendeur, s'abaissant pour m'attirer et sauver mon âme. Oh, comme je l'aime, comme je l'adore. Il est ma lumière, il est ma vie. Ce grand Rédempteur est devenu mon Sauveur. Ce grand Créateur est devenu mon Sauveur. Et toute la plénitude de Dieu habite en lui. Voilà celui qui a satisfait à l'exigence. La grâce a produit la personne de Jésus-Christ. Et nous voyons que ce livre-là, Dieu a dressé sa tente. De Dieu, il est devenu homme. Il a changé sa lignée. Du Tout-Puissant, il s'est fait homme. Il a pris une forme humaine afin de pouvoir mourir pour racheter l'homme. Attendez que nous le voyons quand personne n'est trouvé digne. Voyez, bien, dans la Bible, dans le livre de Ruth, quand vous le lirez, vous allez voir qu'on appelait cette personne le Goël. G-O-E-L. On l'appelait le Goël. Autrement dit, c'était quelqu'un qui pouvait satisfaire aux exigences. Et le Goël devait pouvoir le faire. Il devait être prêt à le faire. Et il devait être un parent, un proche parent, pour pouvoir le faire. Et Dieu, le Créateur de l'Esprit, nous est devenu parent. Quand il s'est fait homme pour pouvoir prendre notre péché sur lui, en payer le prix et nous racheter et nous ramener à Dieu. Voilà, voilà le Rédempteur. Maintenant, Christ nous a rachetés. Maintenant, nous sommes rachetés. Seulement, il n'a pas encore réclamé son bien. Bon, vous n'êtes peut-être pas d'accord, mais attendez un instant, voyez-vous, on va le voir. Voyez, il ne l'a pas réclamé. Voyez, s'il a pris le livre de la rédemption, alors tout ce qu'Adam avait et tout ce qu'il a perdu, Christ en fait le rachat. Et il nous a déjà rachetés. Seulement, il n'a pas encore pris possession. Il ne le peut pas avant le temps marqué. Et c'est alors que la résurrection viendra. C'est alors que la terre sera renouvelée. Et c'est alors qu'il prendra possession de son bien qu'il s'est acquis quand il nous a rachetés. Mais il le fera au temps marqué. Oh là là! Ça, c'est décrit dans ce livre scellé de sept sceaux dont nous sommes en train de parler. Très bien, le livre de la rédemption, tout ça, c'est décrit ici. Tout ça, ce que Christ fera à la fin, nous sera révélé cette semaine dans les sept sceaux, si Dieu nous le permet. Voyez, très bien, ce sera révélé. Et révélé à mesure que les sceaux se brisent et nous sont divulgués. Alors nous pouvons voir ce qu'est ce grand plan de la rédemption et quand et comment il sera exécuté. Tout cela est caché dans ce livre de mystère, ici. C'est scellé, fermé par sept sceaux. Et l'agneau, donc, est le seul qui puisse les briser. Maintenant, excusez-moi, nous comprenons. Maintenant, si vous aimeriez consulter les Écritures, vous pourrez prendre dans Jérémie, et vous pourrez y voir que, quand il a été, quand il a été emmené dans la captivité du pays, vous savez, il a acheté de son oncle. Le fils de son oncle possédait une terre et il a procédé à ce scellement. Si nous examinions tout ça, nous avons aussi parlé de ça dans les sept âges de l'Église, de ces sceaux et tout, là. Vous voyez, un sceau dans l'Ancien Testament, c'était semblable à un rouleau, comme ceci. Et il y avait ici un mystère, et ce mystère était caché. Bon, alors, il était fermé par un sceau et placé ici, le droit à telle et telle chose. Ensuite, le mystère suivant était enroulé autour de ce qu'était cet héritage, et dépassé comme ceci, de ce côté, le droit à telle et telle chose. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que ça forme un rouleau, parce que les gens n'avaient pas de livre comme ceci à l'époque. C'était enroulé. Combien savent ça? On appelait ça un rouleau. Eh bien, d'un rouleau scellé, vous pouviez en détacher un ici, pour voir le mystère qui s'y trouvait, le rompre pour l'ouvrir et voir quel droit y était rattaché. Ensuite, vous pouviez détacher le suivant pour voir quel droit était rattaché à celui-là. Et tout ça, ici, ce sont sept sceaux qui retiennent les mystères de Dieu depuis la fondation du monde, tous scellés à l'intérieur, là, et à être révélés par sept sceaux différents. Aussi, si Dieu le veut, puisse-t-il nous permettre d'ouvrir ces sceaux pour parcourir le livre et voir ce qu'il en est de tout cela. Voyez, oh, j'espère que nous passerons un moment glorieux. Là, le mystère de la rédemption est scellé jusque ce livre ne pouvait pas être dévoilé avant le message du dernier ange. Le rouleau est là. Nous savions qu'il était là. Nous savons qu'il s'agissait de la rédemption. Nous croyons qu'il s'agissait de la rédemption. Jérémie a dit, ce rouleau doit être conservé. Quand vous le lirez, là, c'est ce qu'il va dire. Il doit être conservé dans un vase de terre. Voyez ? Oh, quel beau sujet sur lequel je pourrais parler pendant un moment. Ce rouleau était conservé dans un vase de terre. Un vase qui, jadis, s'est fait chair. Gloire est mort, est ressuscité, est conservé dans ce vase de terre jusqu'au temps de l'acquisition. Oh là là, que c'est beau! Très bien. Maintenant, ces messages sont tous conservés jusqu'au ce vase terrestre, jusqu'au temps, au temps marqué par Dieu du dernier messager de la terre. Et toutes ces choses sur lesquelles ces gens ont émis des jugements en disant « Je sais que c'est là, je crois que c'est là ». Alors, ils se sont démenés avec cela, ils ont suscité cela, ils ont produit ces choses. Par la foi, ils y ont cru. Mais maintenant, ça va nous être apporté par révélation et confirmé par la main de Dieu. Dieu l'a dit, il l'a promis. Bon, maintenant, voyons un peu. Où est-ce qu'on en était? Passons au verset 2 maintenant. On a pris beaucoup de temps pour le verset 1, mais prenons le verset 2. Bon, nous ne resterons probablement pas aussi longtemps sur le prochain. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir, livre et d'en rompre les sceaux. Maintenant, rappelez-vous, relisons le premier verset. Pour que nous les ayons ensemble. Je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône. Dieu, qui est-ce? Le détenteur originel absolu du livre de vie. Il le détient. Dieu le détient. Quand Adam l'a perdu, il est retourné à son propriétaire originel. Il lui appartient. Puis Jean, dans la vision, regarda et vit dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Vous voyez, à l'intérieur. Maintenant, quand nous allons briser ces sceaux, vous allez voir que tout cela se retrouve dans les Écritures, jusqu'au commencement, pour chacun de ces sceaux. Toute la chose, ensemble, le mystère tout entier repose ici dans ces sceaux. Voyez, chaque mystère de la Bible se trouve dans ces sceaux. Et les sceaux ne peuvent pas être brisés avant ce temps-là. Je vais le prouver dans un instant. Remarquez, maintenant le livre, souvenez-vous, est scellé. En voilà un, le voici, un sceau ici. Ensuite, un autre est enroulé, un sceau. Un autre est enroulé, un sceau. C'est un livre de rédemption. Et tout ça ensemble, ça forme le livre et il est scellé de 7 sceaux. Et puis, c'est sur le revers, parce que c'est enroulé. Le mystère du sceau est à l'intérieur. Et tout ce qu'il dit, c'est le cavalier sur le cheval blanc ou le cavalier sur le cheval noir. Et quoi encore, à l'extérieur. Mais le mystère du livre entier est dans ces sceaux. De la Genèse à l'Apocalypse. Tout le plan de la rédemption est révélé dans ces 7 sceaux. Oh, c'est un moment important. Que Dieu nous aide à bien saisir. Voyez? Donc, et un ange puissant. Donc, au verset 2, l'ange puissant, d'une voix forte, il criait, « Qui est digne? Digne de quoi? Qui est digne de prendre ce livre? » Donc, nous voyons où est le livre en ce moment, avec son propriétaire originel, parce qu'il était perdu par un fils, le premier fils de Dieu, de la race humaine. Et quand il a renoncé à ses droits pour écouter Satan, il a abandonné. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a accepté la sagesse de Satan au lieu de la parole de Dieu. Là, on pourrait vraiment s'arrêter ici pendant un bout de temps. Des fils de Dieu vont opter pour l'idée d'un séminaire là-dessus plutôt que pour la parole de Dieu. Vous voyez, la même chose que ce qu'Adam a fait. Il a renoncé à ses droits et, à ce moment-là, il est retourné tout droit. Vous pouvez voir ce qu'il en a été des âges, là, n'est-ce pas? Voyez, il est retourné tout droit au détenteur originel. Et Jean, dans l'esprit, il est là, dans le ciel. Il vient d'être ravi, là, après les âges de l'Église. Vous voyez, il avait vu les âges de l'Église. Ensuite, il a été ravi au chapitre 4. Il a dit, « Monte plus haut, je vais te montrer des choses qui vont arriver. » Et il a vu quelqu'un qui était assis sur le trône, avec ce livre dans sa main, droite. Pensez-y. Bon, et puis, dans ce livre, il y avait un titre de propriété pour la rédemption. Et il était scellé de 7 sceaux. Alors, un ange s'est avancé, un ange puissant, qui proclamait d'une voix forte, qui était digne d'ouvrir le livre, de prendre le livre. Qui pouvait ouvrir les sceaux? Qui pouvait ouvrir ce livre? Vous voyez, l'ange demandait cela. Jean l'a vu. Et il disait, « Maintenant, qui est digne que celui-là... » Oh là là, peut-être que c'est moi qui le ressens comme ça. Mais que celui-là, disait l'ange, que celui-là, voilà le livre de la rédemption. Voilà le plan de la rédemption. Voilà le seul moyen pour vous d'être racheté. Car voilà le titre de propriété pour la rédemption des cieux et de la terre tout entier. Que celui-là veuille bien s'avancer. Oh là là, qu'il parle maintenant ou qu'il se taise à jamais. Que celui-là s'avance pour réclamer ce livre. Qui en est digne? Et Jean a dit, il n'y eut personne dans le ciel qui fût trouvé digne, aucun homme sur la terre qui fût trouvé digne, aucun homme sous la terre qui avait vécu et qui soit mort qui fût trouvé digne, aucun homme ne fût trouvé digne. L'appel de l'ange était un appel destiné à faire apparaître le parent rédempteur. Dieu a dit, j'ai établi une loi, un parent rédempteur peut servir de substitut. Où est ce parent rédempteur? Qui peut prendre le livre? Et depuis Adam jusqu'à la fin, en passant par tous les apôtres et tous les prophètes et tout le reste, on n'a trouvé personne. Maintenant, qu'en est-il? Personne dans le ciel, personne sur la terre, personne qui ait jamais vécu. Élie était là, Moïse était là, tous les apôtres étaient là, ou tous ceux qui étaient morts. Tous les saints, Job, les sages, ils étaient tous là, et personne n'était digne, même de regarder le livre, encore moins de le prendre et d'en briser les sceaux. Maintenant, qu'est-ce que le pape et tout cela deviennent là-dedans? Et votre évêque, où est notre mérite personnel? Nous ne sommes rien. C'est vrai. Il a demandé aux parents rédempteurs de s'avancer s'il le pouvait. Mais Jean a dit qu'aucun homme n'était digne. Ce n'est pas parce qu'il n'y avait pas là des gens dignes, par exemple un ange, comme par exemple, disons, Gabriel ou Michel. Seulement, rappelez-vous, il fallait que ce soit un parent. Rappelez-vous, Jean a dit ici, et aucun H-O-M-M-E, non pas ange, non pas séraphin. Eux n'avaient pas péché, mais ils étaient dans une classe à part. Ils n'étaient jamais tombés. Mais ici, il fallait un parent rédempteur. Aucun homme, parce qu'aucun d'eux n'avait été racheté. Aucun homme n'était digne de le regarder. Oh non, oh là là. Donc, il fallait un parent humain. Et il l'a demandé, mais on ne l'a trouvé nulle part. Il n'y avait personne. Aucun évêque, aucun archevêque, aucun prêtre, aucune hiérarchie, rien de tout cela n'avait même assez de sainteté, ne serait-ce que pour regarder le livre. Oh là là, ça, c'est assez fort, mais c'est ce que la Bible dit. Je ne fais que citer ce que Jean a dit. La Bible dit que Jean a pleuré, pas comme certains l'ont enseigné. J'ai entendu un homme enseigner ceci une fois. Il disait, si Jean a pleuré, c'est parce qu'il ne se trouvait pas digne. Oh, tout homme avec le Saint-Esprit sur lui saurait que ce n'était pas ça. Voyez-vous, sous l'inspiration de Dieu, il saurait que ce n'était pas ça. Mais Jean a pleuré, et voici pourquoi, d'après moi, il a pleuré. C'est parce que si personne n'était digne et ne pouvait ouvrir ce livre de la rédemption, toute la création était perdue. Voici le livre, voici le titre de propriété, et il sera remis au parent rédempteur qui pourra remplir les conditions requises. C'est la loi même de Dieu, et il ne peut pas profaner sa loi, ou plutôt, il ne peut pas défier sa loi. Voyez, Dieu exigeait un parent rédempteur qui soit digne, qui puisse le faire, qui ait ce qu'il faut pour le faire. Et l'ange a dit, « Maintenant que ce parent rédempteur s'avance. » Et Jean a cherché, il a cherché partout sur la terre, il a cherché sous la terre, et il n'y avait personne. La création et tout, tout était perdu. Bien sûr que Jean a pleuré. Tout était perdu. Cependant, ses pleurs n'ont duré qu'un court instant. Voilà l'un des anciens qui dit, « Ne pleure pas, Jean !» Oh là là, ses pleurs n'ont duré qu'un court instant. Jean s'est dit, « Oh, mais où cet homme peut-il être ? Voilà les prophètes. Eux sont nés de la même manière que moi. Voilà les sages. Voilà, oh, il n'y a donc personne ici. Je veux un homme qui puisse le faire. Je veux un homme qui puisse faire le rachat. » Mais il n'a pas été trouvé. Alors Jean a fondu en larmes. Oh, tout était perdu. Et il a pleuré amèrement. Et il était triste parce que tout, la création entière, tout serait perdu si on n'arrivait pas à trouver quelqu'un. Gloire à Dieu, si on n'arrivait pas à trouver quelqu'un qui puisse satisfaire aux exigences, là, tous les êtres humains, le monde entier et la création tout entière étaient perdus. Oh, tout était tombé. Les droits à la rédemption, les droits à la vie éternelle, la lumière, tous ces droits avaient été perdus. Et il n'y avait personne qui puisse payer le prix. Et Jean s'est mis à pleurer, parce que personne n'était digne et que personne ne pouvait même regarder le livre. Oh, il fallait un être humain. Jean pleurait, parce que personne ne pouvait le faire, et que tout était perdu. Alors s'est fait entendre la voix de l'un des anciens, qui se tenait au milieu des quatre êtres vivants, et de toute cette grande armée du ciel. Et elle a dit, « Ne pleure pas, Jean !» Oh là là! La grâce de Dieu! Ne sois pas affligé, Jean! Ne pleure pas! Car le lion de la tribu de Judas, le rejeton et la postérité de David, il a prévalu. Prévaloir, ça veut dire lutter contre et vaincre. Oh! Au jardin de Gethsémané, quand les gouttes de sang tombaient de son visage, il était en train de vaincre. Voyez, voyez, le lion et le rejeton de David a prévalu, a vaincu. Comme Jacob, le supplantateur. Et quand il est entré en contact avec l'ange, il a tenu bon. Et l'ange a essayé de se déprendre. Il a dit, « Je ne te laisserai pas aller, c'est tout. » Il a tenu bon jusqu'à ce qu'il obtienne ce qu'il voulait. Et son nom a été changé de supplantateur, c'est-à-dire imposteur, à quoi? À prince avec Dieu, Israël. Il a prévalu. Et ce lion de la tribu de Judas a prévalu. Il a dit, « Ne pleure pas, Jean, car le lion de la tribu de Judas, le rejeton de David, a prévalu. Il a déjà vaincu. Il l'a fait. C'est terminé, Jean. » Oh là là! Il a produit un décolorant. qui renvoie le péché dans les mains crasseuses de celui qui, par sa sagesse, l'avait souillé, l'être humain. Oui. Mais quand Jean s'est retourné pour regarder, il a vu un agneau. Comme c'est différent d'un lion. Il avait dit, le lion a prévalu. Vous voyez, encore là, je pourrais le dire. Dieu caché dans la simplicité. Il a dit, il y a un lion. C'est le roi des animaux. Le lion a prévalu. Le lion, c'est ce qu'il y a de plus fort. J'ai couché dans les jungles de l'Afrique et j'ai entendu les girafes pousser leurs cris perçants. Et le grand et puissant éléphant barrir, la trompe en l'air. Oui, oui, oui. Et j'ai entendu les sauvages du désert pousser des cris à vous figer le sang. Les scarabées aussi, jusqu'à ce que... Et Billy Paul et moi, étendus là, dans un petit abri couvert de branchages, qu'on entende tout au loin rugir un lion. Et tout ce qu'il y a dans le désert se tait. Même les scarabées arrêtent leurs cris. C'est le roi qui parle. Oh, oh là là! Je vous le dis, c'est là que les dénominations et les doutes s'écroulent. Tout se tait quand le roi parle. Et c'est ceci, le roi, c'est sa parole. Oh, il a dit, Jean, ne t'inquiète pas, ne pleure pas, ne sois pas abattu, Jean. Je t'ai amené ici en vision. Je suis en train de te montrer quelque chose. Et je sais que tu es bouleversé, parce que, tu sais, rien ne peut être racheté. Tout est perdu. Personne n'a pu satisfaire à l'exigence. Mais le lion de la tribu de Judas. Vous savez, Judas, nous l'avons montré sur le tableau noir ici. Vous savez, l'emblème de la tribu de Judas, c'était le lion. Vous vous souvenez, le lion et le bœuf et ainsi de suite, la tête d'un homme et ainsi de suite. Et ceux qui veillaient, les séraphins là, sur la parole, alors que la totalité de Marc, Matthieu, Luc et Jean, tout cela entourait le livre des Actes. J'ai entendu un homme dire, un grand prédicateur dire, le livre des Actes, c'est seulement un échafaudage. C'était la première vigne que la Sainte Église ait jamais produite. Oui, oui monsieur, et si jamais elle en produit une autre, ce sera une de la même espèce. Oui monsieur, on trouve des vignes greffées là, qui portent des citrons. Ce sont des oranges qui devraient être là. Mais, voyez, quand cette vigne, si jamais elle produit de nouveau un sarment qui lui est propre, il sera exactement comme l'original. Et Matthieu, Marc, Luc et Jean, ces évangiles, ils sont là. Ils montent la garde auprès de cela. La sagesse de l'homme, la puissance du lion, le travail du bœuf et la rapidité du léopard, ou plutôt de l'aigle. Oui, les évangiles qui se tiennent là, qu'est-ce? Vous vous rappelez quand on en a parlé? C'est dans les sept âges de l'Église. Donc, il a dit, le lion de la tribu de Judas. Pourquoi de Judas? Oh, Judas, un législateur ne s'éloignera pas de lui, d'entre ses genoux, jusqu'à ce que Shiloh vienne. Mais il sortira de Judas. Et le lion, le symbole de la tribu de Judas, a prévalu. Il a vaincu. Et quand il a regardé pour voir où se trouvait ce lion, il a vu un agneau. C'est étrange. Il cherchait un lion et il a vu un agneau. L'ancien l'a appelé un lion. Mais quand Jean a regardé, il a vu un agneau. Un agneau comme immolé dès la fondation du monde. Un agneau qui avait été immolé. Qu'est-ce que c'était? Cet agneau, c'était quoi? Il était sanglant, blessé. Un agneau qui avait été immolé, mais qui était revenu à la vie. Et il était sanglant. Oh là là! Mes amis, comment pouvez-vous regarder cela et rester pécheur? Un agneau s'est avancé. L'ancien avait dit, un lion a vaincu, le lion de la tribu de Judas. Alors Jean a regardé pour voir le lion, et c'est un agneau qui est arrivé, tremblant, avec du sang sur lui, des blessures. Il avait prévalu. On pouvait voir qu'il avait livré bataille. Il avait été immolé, mais il était revenu à la vie. Jean n'avait pas remarqué cet agneau avant. Vous savez, là, il n'avait pas été question de lui avant. Il n'avait pas été question de lui nulle part. Jean, quand il cherchait, il ne l'avait pas vu nulle part dans les cieux. Mais le voilà qui s'est avancé. Remarquez d'où il s'est avancé. D'où est-il venu? Il est venu du trône du Père, sur lequel il était assis depuis qu'il avait été immolé et qu'il était ressuscité. Il est ressuscité et il s'est assis à la droite de Dieu, vivant à jamais pour intercéder. Amen. Il est monté là en tant qu'intercesseur, aujourd'hui, pour intercéder avec son propre sang, face à l'ignorance des gens. Voilà bien celui sur qui je compte. Il était encore couvert de décolorant, du décolorant du pardon du péché. Jean a regardé cet agneau, et l'agneau avait l'air d'avoir été immolé. Ensuite, il a remarqué qu'il était blessé, tailladé, meurtri, et qu'il saignait. Un agneau sanglant. Voilà ce qui a pris notre place. C'est étrange qu'un simple agneau ait dû prendre notre place, n'est-ce pas? Alors, il a vu l'agneau. Il est sorti. Jean ne l'avait pas vu, parce qu'il se trouvait tout au loin, dans les éternités, en train d'intercéder jusque-là, et de montrer que, pour ceux qui étaient venus à Dieu sous l'offrande du sang des taureaux, des boucs, sous l'offrande d'un substitut, il était aussi, en effet, ceux qui avaient cru regarder à lui. Et comme le sang n'avait pas encore été versé, il était là pour les innocenter. Il était là pour nous innocenter, vous et moi. Et, oh Dieu, j'espère qu'il est là ce soir. Pour chaque pécheur, l'agneau qui a été immolé. Comment Jéhovah peut-il voir autre chose que cet agneau sanglant qui se tient là? Et donc, dans la vision, l'agneau s'est avancé comme immolé. Remarquez, il est venu du trône du Père. Oh, pensez-y. D'où est-il venu pour entrer dans cette vision? Il est venu de la gloire, où il est assis à la droite de Dieu. Il s'est avancé de la gloire vers Jean. Oh, ce serait glorieux, n'est-ce pas, si ce soir nos pensées pécheresses pouvaient être abandonnées assez longtemps pour l'accepter, et qu'il s'avance depuis tout là-bas dans la gloire, ce soir, pour se faire connaître à n'importe lequel d'entre vous. L'agneau en train de s'avancer de la gloire pour intercéder. Donc, pour faire valoir maintenant les droits de sa rédemption. Souvenez-vous, ici, il avait été occupé à son œuvre de médiation. Mais souvenez-vous, ses sceaux sont sur le point d'être ouverts. Alors l'agneau est venu du sanctuaire de Dieu. Il s'est avancé. Attendez un peu qu'on en arrive à cette heure, qu'on prenne cette demi-heure où il est silencieux. Le sanctuaire est rempli de fumée. Il n'y a plus d'intercession. Le sacrifice est parti. C'est un tribunal. Il n'y a plus de sang dessus, parce que l'agneau couvert de sang s'en est allé. N'attendez pas jusque-là. Vous vous souvenez de l'Ancien Testament? Tant qu'il n'y avait pas de sang sur le propitiatoire, c'était le jugement. Mais tant qu'il y avait du sang dessus, il y avait de la miséricorde. Mais quand l'agneau s'est éloigné, c'était terminé. Qu'est-ce qu'il a été? Il a été un intercesseur. Personne d'autre que lui. Dites-moi donc, dans ce cas-là, comment Marie pourrait intercéder? Qu'est-ce que Marie pourrait offrir? Qu'est-ce que Saint François, Saint Assise, ou n'importe quel, et Sainte Cécile plutôt, ou n'importe quel autre être humain pourrait offrir? Ce n'est pas un millier de saints que Jean a vu sortir du lieu de médiation. Il a vu un agneau qui avait été immolé, sanglant. Peu m'importe combien de saints ont été tués, ils le méritaient tous, sans exception. Comme le brigand l'a dit sur la croix, nous avons péché, nous avons ce que nous méritons. Mais cet homme-là, il n'a rien fait. Il était le seul homme à être digne. Et le voilà qui s'avance du lieu d'intercession. Pourquoi est-ce qu'il vient maintenant? Observez-le. Oh, oh là là! Jean pleurait. Où en sont les choses? Qu'est-ce qui va se passer? Il a dit, « Ne pleure pas, Jean, » a dit l'ancien. « Voici le lion. C'est lui qui a prévalu. » Quand il a regardé, c'est un agneau qui s'est avancé, sanglant. Il avait été immolé. Quelque chose qui a été abattu. C'est sanglant. Vous savez, ça a été abattu. Le cou a été tranché ou quelque chose. Il y a du sang partout. Voilà un agneau qui arrive. Il avait été immolé. Et il s'est avancé. Oh là là, qu'est-ce? Pour faire valoir les droits de sa rédemption. Amen. Oh, oh, je... Est-ce que ça ne vous donne pas envie d'aller vous cacher dans un coin pour pleurer un moment? Voilà un agneau qui arrive, encore sanglant. Jean, rien de tout ce qu'il y avait là. Les célébrités, elles étaient toutes là, mais pas une d'entre elles ne pouvait le faire. Alors, voilà l'agneau qui arrive là. Les jours de son intercession sont terminés. Les jours de sa médiation. C'est à ce moment-là que cet ange se tiendra là. Attendez un peu qu'on en arrive au sceau. Et il n'y aura plus de temps. C'est vrai, cette demi-heure de silence. Regardez bien ce qui va se passer pendant cette demi-heure de silence, au moment de ce septième sceau, dimanche soir prochain, si le Seigneur le veut. Il s'avance, qu'est-ce? Pour prendre maintenant possession de ses droits. Oh là là! Il s'avance pour prendre possession de ses droits. Or, il avait accompli l'œuvre du parent. Il était descendu, il s'était fait homme, il était mort. Il avait accompli l'œuvre de rédemption du parent, mais il n'avait pas encore fait valoir son droit. Le voilà maintenant qui arrive pour réclamer ses droits. Regardez ce qui va se passer. Oh, pour lesquels il a été immolé. En effet, il était devenu un parent de l'homme pour mourir à sa place, pour le racheter. Seulement l'ancien avait raison quand il a dit qu'il était un lion. Vous voyez, l'ancien l'a appelé, il a dit un lion. En effet, il avait été un agneau, un intercesseur, un agneau sanglant. Mais maintenant, il s'avance en tant que lion. Les jours de son intercession sont terminés. Que celui qui est souillé se souille encore. Que le juste pratique encore la justice. Que celui qui est saint se sanctifie encore. C'est fermé. Oh, frère! Et ensuite! Et souvenez-vous, cela se produit au septième âge de l'Église, quand les mystères de Dieu seront dévoilés. Maintenant, soyez très attentifs. Voici quelque chose qu'il faut que vous saisissiez. Donc, il avait été occupé à son œuvre de médiation, intercédé pour le croyant. Pendant 2000 ans, il avait été là en tant qu'agneau. Maintenant, le voilà qui s'avance. Il vient de l'éternité pour prendre le livre contenant le titre de propriété, en briser les sceaux et révéler les mystères. Quand ça? Au temps de la fin. Vous saisissez? Très bien. Alors, nous allons continuer. Donc, brisez les sceaux et divulguez tous les mystères à ceux au septième ange dont le message est de révéler tous les mystères de Dieu. Les mystères de Dieu se trouvent dans ces sept sceaux. Voyez, c'est ce qu'il a dit ici. Tous les mystères se trouvent dans ces sept sceaux. Et maintenant, l'agneau s'avance. De médiateur entre Dieu et les hommes qu'il était, il devient un lion. Et quand il devient un lion, il prend le livre. Ce sont ses droits. Dieu le détenait, le mystère. Mais maintenant, l'agneau arrive. Personne ne pouvait prendre le livre. Il est encore entre les mains de Dieu. Ni pape, ni prêtre, ni quoi que ce soit. Ils ne peuvent prendre aucun le livre. Les sept sceaux n'ont pas été révélés. Voyez, mais quand le médiateur, quand son œuvre en tant qu'intercesseur est accomplie, il s'avance. Et Jean, l'ancien a dit, c'est un lion. Et il s'avance. Regardez-le bien. Oh là là, voyez, il s'avance pour prendre le livre. Regardez bien, là, pour révéler les mystères de Dieu sur lesquels les autres ont fait des suppositions. tout au long des âges des dénominations. Alors, vous voyez, le septième ange, si ce livre, les mystères, c'est la parole de Dieu, le septième ange doit nécessairement être prophète pour que la parole de Dieu vienne à lui. Ni prêtre, ni pape, ni personne d'autre ne peut la recevoir. La parole ne vient pas à ceux-là. La parole de Dieu vient seulement aux prophètes. Toujours. Malachi 4 en a promis un. Et quand il arriverait, il prendrait les mystères de Dieu, alors que l'Église serait dans la confusion totale avec toutes ses dénominations. Et il ramènerait la foi des enfants au Père. Et ensuite, le jugement frapperait le monde, et la terre serait brûlée. Ensuite, les justes marcheraient sur les cendres des méchants pendant le millénium. Vous comprenez maintenant? Très bien. Les autres avaient fait des suppositions au cours de l'âge des dénominations. Mais vous voyez, il doit être cet homme, ce septième ange de Apocalypse 10, 1 à 4, est un... C'est au septième ange que les mystères de Dieu sont donnés. Et il mène à terme tous les mystères qui ont été laissés en suspens tout au long des âges des dénominations. Maintenant, vous pouvez voir pourquoi je ne m'en prends pas à mes frères qui sont dans les dénominations. Mais c'est le système de la dénomination. Il n'est inutile qu'ils essaient de connaître cela, parce que cela ne pouvait pas être révélé. Je m'appuie sur la parole pour dire ça. Ils ont présumé là-dessus, et ils ont cru que c'était là. Et par la foi, ils ont marché d'après cela. Mais maintenant, c'est manifestement prouvé. Amen. Oh là là, c'est tout un passage de l'Écriture. Maintenant, regardez bien. Alors, c'est lui, l'agneau, qui prend sa position de roi quand ses saints viennent le couronner Seigneur du Seigneur et Roi des rois. Vous voyez, le temps est écoulé. Apocalypse 10, 6, il n'y a plus de temps. Remarquez, il y a sept cornes sur cet agneau. L'aviez-vous remarqué? Il avait sept cornes. Nous venons juste de le voir. Les cornes, ça représente la puissance chez l'animal. Et remarquez, il n'était pas un animal, parce qu'il a pris le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Voyez, remarquez, oh là là, je crois que j'avais noté ça quelque part. Oh, briser les sceaux et libérer le titre de propriété, et donner le message au dernier ange. Et il prend sa position de roi. C'est pour ça qu'il s'avance maintenant. Maintenant, remarquez bien, quand il sort les sept cornes. Or, quand il a vu cet agneau, Jean, quand il l'a regardé, il avait l'air d'avoir été immolé. Il était sanglant. Et il est venu de l'éternité. Et il a cessé d'être un médiateur. Alors, priez Marie tant que vous voudrez. Il n'y avait aucun homme dans le ciel, sur la terre, personne, aucun être nulle part ailleurs qui puisse le prendre. J'ai même pleuré à cause de ça. Oh, mon ami catholique, ne pouvez-vous pas voir ça? Ne priez pas une personne qui est morte. Le seul médiateur, c'est l'agneau. Voyez, c'est lui qui s'est avancé. Et alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il était là-bas, en train d'intercéder, jusqu'à ce que son sang ait fait l'expiation pour chaque personne. Et l'agneau, là, il sait ce qui est écrit dans le livre. Donc, il savait, dès la fondation du monde, que leur nom était à l'intérieur. C'est pour ça qu'il était resté là. Mais il a accompli son œuvre de médiateur, comme ceci, jusqu'à son œuvre de médiation, jusqu'à ce que chacun de ceux qui avaient été inscrits dans le livre ait été racheté, et que ce soit terminé. Et maintenant, le voilà qui s'en va. Voyez, il a accompli son œuvre de parent. Il est tout. Vous savez en quoi consistait l'œuvre du parent? Témoigner devant les anciens. Vous vous rappelez Bose, qui a ôté son soulier et tout. Maintenant, il a accompli tout cela. À présent, il vient prendre son épouse. Amen. Il vient maintenant en tant que roi. Il cherche sa reine. Amen. Amen. Dans ce livre, il y a le secret de tout cela, enveloppé par sept sceaux. Oh, frère, sept sceaux dans l'attente de sa venue. Remarquez, voyons un peu ces symboles. Eh bien, il n'est que 21h. Il nous reste encore au moins 3 heures. Satan n'arrête pas de me dire que les gens sont fatigués. Alors j'imagine qu'ils le sont. Mais voyons quand même ceci. Les sept cornes, c'étaient les sept églises. Vous voyez, les sept âges de l'Église. Parce que c'était la protection de l'agneau. Ce avec quoi elle protégeait ses droits sur la terre. C'était un groupe de gens envoyés de Dieu qui assurait la protection. Vous voyez, la corne de l'agneau. Les sept yeux sont les sept messagers des sept âges de l'Église. Sept yeux, sept voyants. Aimeriez-vous noter quelques passages de l'Écriture? Nous allons les lire. Qu'en dites-vous? Avez-vous le temps? Très bien. Prenons dans Zacharie, le livre de Zacharie, un petit peu, et nous en lirons un bout. Je ne veux pas vous garder trop longtemps sur ces choses, mais d'autre part, je ne voudrais pas que ça vous échappe. Qu'est-ce qu'il y a de plus important que ceci? Oui, qu'est-ce qu'il y a de plus? Il n'y a rien de plus important pour une personne que la vie éternelle. Alors, il nous faut saisir là et être bien sûr d'avoir saisi. Très bien. Bon, très bien. Et maintenant, nous voulons lire dans Zacharie chapitre 3. Je pense que c'est bien ça, là, Zacharie 3. Nous allons juste voir ces symboles, si j'ai bien noté les références bibliques. Je poussais des cris de joie. Je ne tenais plus en place cet après-midi quand j'ai découvert ceci. Alors, je ne sais pas si je l'ai noté comme il faut ou pas. J'espère que oui. Zacharie 3. Voyons si c'est... J'ai noté 89 ici. Mais ce doit être de 8 à 9. Très bien, très bien. Je sais que ça ne peut pas être 89. Zacharie 3, 8 et 9. Écoute donc, Josué, grand sacrificateur, toi et tes compagnons qui sont assis devant toi, car ce sont des hommes qui serviront de signe. Voici, je ferai venir mon serviteur, le germe, Christ. Car voici pour ce qui est de la pierre que je placerai devant Josué. Il y a sept yeux sur cette pierre. Seule pierre, sept yeux. Voici, je graverai moi-même ce qui doit être gravé dessus, dit l'Éternel des armées. J'enlèverai l'iniquité de ce pays en un jour. Maintenant, prenons Zacharie 4:10. 4:10. Écoutez, ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements, Dieu dans la simplicité, vous voyez, se réjouiront en voyant le niveau dans les mains de Zorobabel, dont ces sept sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Les sept yeux, ça représente la vue. La vue, ça représente les prophètes, les voyants. Cet agneau avait sept cornes, et sur chaque corne, il y avait un œil, sept yeux. Qu'est-ce que c'est? Christ et son épouse, sept âges de l'Église, sept prophètes sont sortis de là, sept voyants, sept yeux. Par conséquent, le dernier doit être un voyant. Très bien. Remarquez, il n'est pas un animal. Il a pris le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. C'était qui? Le propriétaire. Le propriétaire originel qui tenait le livre de la rédemption dans sa main droite. Et aucun ange, aucun être angélique, rien d'autre ne pouvait prendre la place. Et cet agneau sanglant est sorti et a pris le livre de sa main. Qu'est-ce que c'était? Frère, c'est la chose la plus sublime de l'Écriture. Amen. Un geste qu'aucun ange, ni rien, n'aurait pu faire. Et l'agneau est venu, et il l'a pris de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Qu'est-ce que c'est? Maintenant, il appartient à l'agneau. Amen. Les lois de Dieu exigeaient. C'est lui qui le tient. La loi de Dieu exigeait un parent rédempteur. Et l'agneau est sorti, il le tenait. Je suis leur parent, je suis leur rédempteur. Maintenant, j'ai intercédé pour eux. Et maintenant, je suis venu pour faire valoir leurs droits. Amen. Voilà le seul. Je suis venu faire valoir leurs droits. En effet, ils ont droit à tout ce qui a été perdu dans la chute. J'en ai payé le prix. Oh, frère! Est-ce que vous ne vous sentez pas religieux à l'intérieur, là? Pas à cause des bonnes œuvres que nous aurions faites, mais à cause de sa miséricorde. Oh, attendez un instant, et voilà les anciens et tout le reste qui se mettent à ôter leur couronne, et les dignitaires qui se mettent à se prosterner, vous voyez? Personne ne pouvait le faire. Et il s'avance directement jusqu'à la droite de Dieu. Et il a pris le livre de sa main et réclamé ses droits. Je suis mort pour eux. Je suis leur parent rédempteur. Je suis le médiateur. Mon sang a été versé. Je suis devenu homme. Et je l'ai fait dans le but de reprendre cette église, celle que j'avais vue d'avance avant la fondation du monde. C'est ce que j'ai déterminé. J'ai déclaré qu'elle serait là, et personne ne pouvait le prendre, mais je suis descendu et je l'ai fait moi-même. C'est moi leur parent. Je suis devenu parent. Et il prend le livre. Amen. Oh, qui est là-bas à m'attendre ce soir? Qui est celui, Église, qui est là-bas à attendre? Quel autre pourrait vous attendre là-bas, ce parent rédempteur? Oh là là, quelle déclaration sublime, ou quel geste sublime! Maintenant, il a le titre de propriété de la rédemption. Il l'a dans sa main. Maintenant, la médiation est terminée. Il l'a dans sa main. Rappelez-vous, il avait été tout le temps dans la main de Dieu. Mais maintenant, il est dans la main de l'agneau. Maintenant, regardez bien. Le titre de propriété pour la rédemption de toute la création est dans sa main. Et il est venu le réclamer, le reprendre, aussi pour la race humaine. Le réclamer, pas pour les anges, il l'a réclamé pour les êtres humains auxquels il avait été donné, pour en faire de nouveau des fils et des filles de Dieu, les ramener au jardin d'Éden, à tout ce qu'ils avaient perdu, la création tout entière, les arbres, la vie animale et tout le reste. Oh là là, n'est-ce pas réjouissant? Je pensais que j'étais fatigué, mais je ne le suis plus maintenant. Voyez, parfois je pense que je deviens trop vieux pour prêcher. Et alors, je me mets à voir des choses comme celle-là, et j'ai l'impression de redevenir un jeune homme. Oui, ça vous fait quelque chose. Voyez, en effet, je sais ceci, il y a quelqu'un là-bas qui m'attend. Il y a quelqu'un qui a payé le prix que je ne pouvais payer. C'est vrai, il l'a fait pour moi, Charlie. Il l'a fait pour vous, il l'a fait pour toute la race humaine. Et maintenant, il s'avance pour réclamer les droits de sa rédemption. Les réclamer pour qui? Pas pour lui-même, pour nous. Il est l'un de nous, il nous est parent. Oh là là, il est mon frère, il est mon sauveur, il est mon Dieu, il est mon parent rédempteur, il est tout. En effet, qu'est-ce que j'étais sans lui? Ou qu'est-ce que je pourrais être sans lui? Alors, vous voyez, il est mon tout. Il se tient là, en tant que notre parent. Et il a intercédé pour nous jusqu'à présent. Et le voilà maintenant qui s'avance et qui prend le livre de la rédemption pour faire valoir ses droits à cause de ce qu'il a fait pour nous. Il meurt. Jésus a dit, « Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Peu importe qu'il s'endorme à la première veille, à la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième ou la septième, quel que soit l'endroit où il s'endorme, qu'est-ce qui va arriver? La trompette de Dieu sonnera. Cette dernière trompette retentira en même temps que le dernier ange donne son message et que le dernier sceau est ouvert. Cette dernière trompette sonnera et voilà le Rédempteur qui s'avance pour prendre possession de ceux qu'il a rachetés, son Église, lavée par le sang. Maintenant, oh, toute la création est maintenant dans sa main et tout le plan de la rédemption est scellé par ces sept sceaux mystérieux dans ce livre qu'il a pris. Maintenant, regardez bien, et lui seul peut le révéler à celui à qui il veut le révéler. Il l'a dans sa main, vous voyez. Or, il a promis que ce serait fait à ce moment-là, Donc, car il est scellé par les sept sceaux du mystère, ce livre de la rédemption. Maintenant, regardez bien. Maintenant, comme, mes amis, je vous avais dit que je vous laisserais partir à 20h30, mais j'ai laissé de côté 3 ou 4 pages pour pouvoir arriver ici. Alors je voudrais, il est déjà passé 21h, pour que vous puissiez revenir demain. Mais maintenant, dans ce livre de 7 sceaux de la rédemption que l'agneau a pris avec lui, il était le seul à pouvoir le faire. Et il l'a pris de la main droite de celui qui était assis sur le trône, maintenant, pour réclamer sa rédemption, pour réclamer ses droits, pour réclamer pour moi et pour vous ce à quoi il nous a ramenés par sa rédemption. Vous voyez, nous ramener à tout ce qu'Adam avait perdu dans le jardin d'Éden. Il nous a ramenés là par sa rédemption. Maintenant, avec l'agneau qui tient le livre dans ses mains, nous sommes prêts à lui demander de nous accorder sa grâce et sa miséricorde, de nous ouvrir ce livre scellé de 7 sceaux et de nous permettre de regarder au-delà du rideau du temps, juste un tout petit peu. Oh là là! Remarquez, quand il a pris le livre, le titre de propriété scellé, gardez cela à l'esprit maintenant, et qu'il a brisé les sceaux du mystère pour les révéler, pour les apporter à ses, voyez-vous, à tous ses sujets rachetés. Or, quand nous en arriverons à cela, dans les sceaux, nous irons là derrière, et nous verrons ces âmes sous l'autel qui crient, « Seigneur, jusque à quand ? Jusque à quand ?» Et lui, il est là en tant que médiateur sur l'autel, encore un peu de temps, jusqu'à ce que d'autres aient à souffrir comme vous. Mais voilà, maintenant qu'il vient de là, à ce dernier sceau, il n'est plus médiateur. Maintenant, il est roi. Et qu'est-ce qu'il fait ? S'il est roi, il doit avoir des sujets. Et ces sujets, ce sont ceux qu'il a rachetés. Et ils ne peuvent pas se présenter devant lui avant qu'il ait pris possession des droits de la rédemption. Et maintenant, il s'avance de médiateur qu'il était, alors que la mort nous avait mis dans la tombe. Il s'avance avec les droits. Amen. Et même les vivants qui seront restés jusqu'à sa venue ne devanceront pas ceux qui se sont endormis, car la trompette de Dieu sonnera à cette dernière trompette. Quand le dernier sceau est brisé et que le 7e ange donne son message, la dernière trompette sonnera et les morts en Christ ressusciteront. Et nous, les vivants qui serons restés, nous serons ensemble enlevés avec eux à sa rencontre dans les airs. Il réclame. Maintenant, il s'est avancé pour réclamer son bien. Remarquez bien. Regardez bien ceci. Oh, il a brisé les sceaux, révélé les mystères, les a révélés où ? Au dernier âge de l'Église, le seul qui est vivant. Les autres dorment. Il a dit qu'il arrive à la première veille, à la deuxième veille, à la troisième veille, et ainsi de suite, jusqu'à la 7e veille. À la 7e veille, un ordre ou un appel s'est fait entendre. Voici l'époux. Et à ce moment-là, les vierges endormies, les églises dénominationnelles ont dit, « Oh, vous savez, je crois que j'aimerais bien avoir ce Saint-Esprit. » Avez-vous remarqué les presbytériens et les épiscopaux? Avez-vous entendu le message que j'ai prêché à Phoenix, à ces hommes qui se tiennent sur l'estrade et dans la voix, là, qui disent, « Voyons, qu'est-ce qui lui a pris à l'homme qui a écrit ça de dire, « Le Saint Père un tel ?» Alors que la Bible dit, « N'appelez personne Père, comme ça. » Vous voyez, ils sont endormis avec elle. C'est pour ça. Mais quand elles sont sorties et qu'elles ont dit, « Oui, nous croyons. » Une femme vient de téléphoner à une autre femme. Elle a dit, « Tu sais, je suis de l'église épiscopale. » Elle a dit, « J'ai parlé en langue l'autre jour. Je crois que j'ai reçu le Saint-Esprit, mais chut, ne le dis à personne. » J'ai de sérieux doutes là-dessus. Vous avez peut-être bien parlé en langue, mais quand on met le feu à un homme, comment peut-il rester là sans bouger? C'est vrai, voyez, il ne peut pas. Pouvez-vous imaginer Pierre, Jacques et Jean et les autres dans la chambre haute en train de dire, « Oh, on a le Saint-Esprit maintenant, mais peut-être qu'on ferait mieux de rester tranquille. » Frères, par les fenêtres, par les portes et tout, ils s'en sont allés dans la rue en se comportant comme une bande de gens ivres. Voilà le vrai Saint-Esprit. Mais vous voyez, cette vierge endormie, elle ne reçoit rien de toute façon. Et oui, c'est vrai. Et souvenez-vous, pendant qu'elles sont allées essayer d'acheter de l'huile, souvenez-vous, les Écritures ne disent pas qu'elles en ont eu. Mais pendant qu'elles étaient parties essayer d'en acheter, un son a retenti. Qu'est-ce qui s'est passé? Toutes ces vierges qui dormaient, elles se sont levées, elles ont préparé leurs lampes et elles sont entrées au souper. Pas vrai? Et les autres sont restées là pour la période de la tribulation. C'est vrai, les pleurs, les gémissements et les grincements de dents. Ça, c'est l'Église, pas l'épouse. L'Église. L'épouse est entrée. Il y a toute une différence entre l'Église et l'épouse. Oui, monsieur. Oui, oui. Elles sont entrées au souper des noces. Oh, remarquez. Oh là là. Les sceaux ont été brisés. Pourquoi? Au dernier âge de l'Église. Pour révéler ses vérités. Pourquoi? L'agneau a brisé les sceaux et il les a révélés à son Église pour rassembler ses sujets pour son royaume. Son épouse, voyez-vous? Oh là là! Maintenant, il veut amener ses sujets à lui. Qu'est-ce que c'est? De la poussière de la terre, du fond de la mer, des fosses, de partout, de tout lieu, des régions des ténèbres, du paradis, où qu'il soit. Il appellera et ils répondront. Amen! Amen! Il appellera et ils répondront. Il est venu chercher ses sujets. Il a révélé ses secrets et ils les ont vus. Et il n'y a plus de temps à ce moment-là. Le temps est écoulé. C'est terminé. Très bien. Il quitte le trône pour être un intercesseur en tant qu'agneau immolé, pour être un lion, un roi, pour faire comparaître en jugement le monde qui a rejeté son message. Il n'est pas médiateur. Rappelez-vous l'enseignement de l'Ancien Testament maintenant, alors que nous nous dépêchons. Quand il n'y avait plus de sang sur le propitiatoire, celui-ci devenait quoi? Un tribunal. Et quand l'agneau immolé s'est avancé de l'éternité, du trône du Père, et qu'il a pris possession de ses droits, c'est devenu un tribunal. Alors, il est devenu, non pas un agneau, mais un lion, un roi. Et il appelle sa reine pour qu'elle vienne se placer à ses côtés. Ne savez-vous pas que les saints jugeront la terre? Daniel a dit, le jugement s'assit, et les livres furent ouverts, et des myriades de milliers le servaient. Le roi et la reine. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Celui-là, c'est pour l'Église. Et la reine et le roi se tenaient là, comme l'exprime la méditation d'un cow-boy. Hier soir, étendu dans la prairie, je contemplais les étoiles du ciel. Et je me demandais si un simple cow-boy pourrait un jour être emporté vers ce merveilleux au-delà. Un chemin mène à cette région rayonnante de bonheur. On dit qu'il est sombre, ce n'est qu'un sentier, mais le chemin spacieux qui mène à la perdition est jalonné, bien indiqué jusqu'à la fin. On parle d'un autre grand propriétaire. Il utilise les termes propres à son métier de gardien de bétail. Si vous avez déjà assisté à un rassemblement de bétail, vous le verrez clairement. On parle d'un autre grand propriétaire. Celui-là, dit-on, n'a jamais trop de bétail. Toujours, il fera une place pour un pêcheur prêt à se laisser entraîner sur ce chemin étroit et resserré. On dit que jamais il ne nous abandonnera, qu'il connaît chaque geste, chaque regard. Pour être en sûreté, soyons marqués de son fer, avec nos noms inscrits dans son grand livre. Car, dit-on, il y aura un grand rassemblement où les cow-boys se tiendront là comme des veaux sans maman pour être marqués par les cavaliers du jugement, ces prophètes et voyants qui sont postés là et qui connaissent chaque marque. Si vous avez déjà assisté à un rassemblement de bétail, vous avez vu le patron se tenir là et les cavaliers parcourir le troupeau de bêtes en mouvement. Quand il voit passer sa marque à lui, il fait signe au patron et le patron le voit et lui répond par un signe de tête. Alors, son poney s'avance rapidement et tourne autour de ce remous de cornes, comme ça, et il fait sortir ses propres bêtes. Voyez? On dit qu'il y aura un grand rassemblement, et les cow-boys se tiendront là, comme des veaux sans maman. Et ils seront marqués par les cavaliers du jugement, qui sont postés là, et qui connaissent chaque marque. Voyez ? Alors, dit-il, je suppose que je ne serai qu'un jeune animal égaré, rien qu'un homme condamné à mourir, qui n'a pas été marqué. Lui, il est de ceux dont on fait de la soupe, vous voyez, qui sera retranché avec les voleurs de bétail, quand le patron de ses cavaliers va venir. Vous voyez qui c'est ? Le patron des cavaliers. C'est l'agneau, pour les 7 messagers qui sont postés là, et qui connaissent chaque marque, voyez ? Remarquez, le voilà qui arrive. Il quitte le trône en tant qu'intercesseur, en tant qu'agneau immolé. Il devient un lion, un roi, pour faire comparaître en jugement le monde entier pour son rejet. Notre parent rédempteur est alors roi de tout. Pourquoi ? Il possède le titre de propriété de la rédemption. Tout est dans sa main. Je suis si content de le connaître. Voyez ? Alors, il réclame son héritage. C'est l'Église, l'épouse. Il la réclame. Qu'est-ce qu'il fait ensuite ? Il se débarrasse de son adversaire, Satan. Il le jette dans un étang de feu, avec tous ceux qui ont été inspirés par Satan de rejeter sa parole de rédemption. Maintenant, il est roi. Il y a encore de la miséricorde sur le trône. Ne rejetez pas son offre. Voyez, les cavaliers savent exactement qui vous êtes. Et là, son adversaire, qui lui a causé des ennuis pendant 2000 ans et qui déclarait, « Je peux faire d'eux ce que je veux. Je les tiens encore. Ils m'appartiennent. Ils ont perdu le titre là-bas. Mais il est le parent rédempteur. Il a dit qu'il est maintenant là-bas, en train d'intercéder. Mais un jour, qu'ils disent, « Je les mettrai dans la tombe. » Mais il a dit à l'Église, « Je vous en ferai sortir. » Voyez, seulement d'abord, je dois être un intercesseur. Maintenant, il s'avance. Il arrive de l'éternité là-bas. Il se lève du trône du Père, où il était assis en tant qu'intercesseur. Il vient maintenant pour être roi. Oh, pour paître toutes les nations avec une verge de fer. Le jugement est prêt à commencer. Oh, frère, notre parent rédempteur a tout entre ses mains. C'est vrai. Oui, monsieur. Qu'est-ce qu'il fait ? Il lance un défi à l'adversaire, Satan. Ils m'appartiennent maintenant. Je les ai fait sortir de la tombe. Et il prend tous les menteurs et ceux qui pervertissent la parole et tout cela avec Satan et les détruit dans l'étang de feu. C'est sa fin maintenant. Il les jette dans un étang de feu. Oh là là, vous savez quoi ? Je veux dire quelque chose ici avant de terminer. Et après, nous allons nous dépêcher. Remarquez, nous en sommes maintenant au verset 7. Mais du verset 8 au verset 14, je voudrais que vous remarquiez ce qui se passe. Tous ceux qui étaient dans le ciel, tous ceux qui étaient sur la terre. Écoutez bien ceci. Je vais le lire là. Je crois qu'il vaudrait mieux que je le lise directement dans le livre, avec le verset 7, vous voyez. Et regardez bien le verset 6. Et je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu des anciens un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 têtes, ou 7 cornes, je veux dire, et 7 yeux, on vient juste de l'expliquer, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Vous voyez, 7 âges de l'Église, les 7 messagers qui ont tenu ce feu allumé. Vous voyez, très bien. Il vint, l'agneau, et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Maintenant, regardez bien. Et quand il a fait cela, regardez bien ce qui s'est passé. Vous parlez d'un jubilé. Or, ici, ce qui se passe, c'est précisément l'ouverture des sceaux. Nous arriverons à la demi-heure de silence juste après. Regardez bien, et nous allons commencer. Et c'est avec ceci que nous allons terminer dimanche soir, là. Hey, écoutez bien maintenant. Êtes-vous prêts ? Dites « Amen ». Écoutez bien ce qui s'est passé une fois qu'il a fait ça. Alors que toute la création soupirait, personne ne savait quoi faire, et j'en pleurais. voilà l'agneau qui s'est avancé. Et ce livre était entre les mains du propriétaire originel. Parce que l'homme était tombé, elle avait perdu. Et aucun homme n'était capable de le reprendre pour racheter la terre. Ni prêtre, ni pape, ni rien, comme je l'ai dit. Mais l'agneau est arrivé. Ni Marie, ni saint ceci, ni saint cela. L'agneau est arrivé, sanglant, immolé. Et il a pris le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Et quand ils ont vu qu'il y avait un rédempteur, et que toutes les âmes qui étaient sous l'autel, que les anges, les anciens et tout, quand ils ont vu cela se produire, pour le moment, c'est encore dans l'avenir. Ce soir, il est un médiateur, mais ils vont venir là. Regardez bien. Quand il eut pris le livre, les quatre êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Ce sont ceux qui sont sous l'autel, qui ont prié il y a longtemps. Vous voyez, ils avaient prié pour la rédemption, prié pour la résurrection. Et ici, les anciens répondent les prières devant. En effet, maintenant, nous avons un représentant, nous avons un parent dans le ciel, qui s'est avancé pour faire valoir ses droits. Et ils chantèrent un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour notre Dieu, regardez bien, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux des rois et des sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. » Ils voulaient revenir, et les voilà qui vont revenir, pour être rois et sacrificateurs. Gloire à Dieu, je me sens assez bien pour parler en langue. Regardez, remarquez bien. Oui, il me semble que mon langage est insuffisant pour que je puisse le louer. J'aurais besoin d'une langue que je ne connais même pas. Remarquez, je regardais. Écoutez bien ceci. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges. Écoutez-moi donc ce jubilé. En voyant cet agneau venir et prendre le livre de la rédemption, les âmes ont poussé des cris. Nous allons y venir. Tous, les anciens se sont prosternés. Ils ont répondu les prières des saints. Qu'est-ce? Il y avait là quelqu'un qui représentait un parent pour nous. Ils se sont prosternés, face contre terre. Et ils ont chanté un cantique en disant, « Tu es digne, car tu as été immolé. » Remarquez ce qui... Et regardez ces anges. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des anciens. Et leur nombre était des myriades, de milliers. Remarquez, ils disaient d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et les louanges. » Quel jubilé il y a dans le ciel quand cet agneau guide quitte le lieu d'intercession pour venir ici prendre possession de ses droits. Vous savez, ça s'est aussi emparé de Jean. Il a dû voir son nom écrit là. Quand les sceaux ont été brisés, il a vraiment dû jubiler. Écoutez ce qu'il a dit. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, m'entend dire, je les entendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soient les louanges, l'honneur, la gloire, la force au siècle. Amen, Amen et Amen. Oh! Et les quatre êtres vivants disaient, Amen. Et les anciens se prosternèrent et adorèrent celui qui vit au siècle des siècles. Vous parlez d'un jubilé, vous parlez d'un moment glorieux. Quand l'agneau s'est avancé, vous voyez, le livre est même scellé dans le ciel. Les mystères le sont. Vous dites, est-ce que mon nom y est? Je ne sais pas, je l'espère. Mais s'il y est, il a été écrit dans le livre avant la fondation du monde. Mais la première chose qui a représenté cette rédemption, c'est l'agneau, immolé dès la fondation du monde, qui est venu. Et il a pris le livre, gloire. Il a ouvert le livre et on a arraché les sceaux. Et il l'a envoyé sur la terre à son septième ange. pour le révéler à son peuple. Voilà, oh là là, qu'est-ce qui s'est passé? Les cris, les acclamations, les alléluia, les ouins, la puissance, la gloire, la manifestation. Et ce vieux Jean, notre frère, qui avait été là en train de pleurer, mais il a dit « Tout dans le ciel, tout sur la terre et tout sur la mer » m'a entendu crier « Amen !» Les louanges, l'honneur, la puissance et la force soient à celui qui vit au siècle des siècles. Vous parlez d'un moment d'allégresse, quand les sceaux ont été brisés. Jean a dû regarder et voir au-delà du rideau du temps et dire « Voilà Jean, oh, oh !» Il était si heureux au point qu'il a dit « Tout dans le ciel !» Il a vraiment dû crier fort, n'est-ce pas ? Tout dans le ciel, tout sur la terre, tout sous la terre, toute créature et tout le reste m'ont entendu dire « Amen ». Les louanges, la gloire, la sagesse, la puissance, la force et la richesse lui appartiennent. Amen. Pourquoi ? C'est là que la révélation est venue, que l'agneau, le Rédempteur, notre parent, était revenu du trône de médiation et qu'il s'était avancé ici pour prendre possession de son bien. Oh, l'agneau prendra son épouse pour qu'elle soit à ses côtés. L'armée céleste sera là, viens au repas. Ce sera un glorieux jour, tous les saints vêtus de blanc, avec Jésus festoiront éternellement. Oh, viens souper, le maître appelle, mangez de la parole. Viens souper. Oh, les mots me manquent, vous voyez? Viens souper, viens souper. Oui, festoyez à sa table tout le temps. Maintenant, mais quand il partira de là, plus d'espoir. Lui qui rassasia la foule, changea aussi l'eau en vin. Lui qui a dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Oh là là, lui qui a promis ces choses pour les derniers jours, lui qui a déclaré ces choses, lui qui est maintenant au temps de faire connaître la révélation de ces choses. Viens souper. Oh, ne manque pas cela, mon frère. Maintenant, courbons la tête un instant. Demain soir, par la grâce de Dieu, nous allons essayer de briser ce premier sceau, si Dieu veut bien le briser pour nous, et nous faire voir quelle est cette révélation qui a été cachée depuis la fondation du monde. Avant de faire ça, amis pêcheurs ou membres d'église tiède, est-ce que tout ce que vous avez, c'est une carte de membre d'une église, ou bien si vous n'avez pas de carte de membre? Et si tout ce que vous avez, c'est une carte de membre, vous feriez presque aussi bien de ne pas en avoir. Vous avez besoin d'une naissance. Vous devez venir au sang. Vous devez en venir à quelque chose qui efface complètement le péché, au point qu'il n'en reste plus aucun souvenir. Si vous n'avez pas encore fait vos préparatifs pour aller à la rencontre de l'agneau dans les airs, et en vertu du pouvoir dont j'ai été investi par la commission qui m'a été donnée par le Dieu Tout-Puissant et qui m'a été administrée par un ange, une colonne de lumière, je vous somme au nom de Jésus-Christ. N'essayez pas d'aller à sa rencontre avec seulement une carte de membre d'un club, d'une église de cette terre. Venez pendant que le médiateur, pour autant que je sache, est encore sur le trône, en train d'intercéder. En effet, un jour viendra où vous voudrez venir, et il n'y aura aucun médiateur. Car si nous reconnaissons l'heure où nous vivons, au septième âge de l'Église, avec les mystères de Dieu qui sont là où ils en sont, alors que l'Esprit de Dieu confirmé montre tout ce qu'il a promis pour les derniers jours. Combien de temps peut-il encore rester? Ami pécheur, viens. Seigneur Jésus, il se fait tard. Il est peut-être même plus tard que nous le pensons. Et nous sommes heureux de voir approcher cette heure. Pour le croyant, c'est l'heure la plus glorieuse que le monde ait jamais connue. Mais pour celui qui rejette, c'est l'heure la plus triste qui puisse jamais exister. On ne pourrait pas trouver dans l'alphabet les mots, les lettres pour former les mots qui pourraient exprimer la détresse et la douleur qui vont venir. Et notre alphabet ne permettrait pas non plus de former les mots pour exprimer les bénédictions qui attendent le croyant. Père, peut-être y en a-t-il ici ce soir qui sont sans espoir, et ce sont des êtres humains intelligents. Aussi, si le sang est encore sur le propitiatoire, que l'agneau se lève du trône pour venir à leur cœur ce soir, leur révéler qu'ils sont perdus, et de ses mains couvertes de sang qu'ils disent « Viens, pendant qu'il est temps de venir. » Je remets ce message, Seigneur, avec ma prière entre tes mains. Fais ce que tu voudras, Père, au nom de Jésus. Gardons la tête inclinée. Si vous n'avez pas satisfait à cette demande et à cette exigence, si vous vous êtes seulement reposé sur votre Église, rien ne pouvait vous racheter. Si vous vous êtes reposé sur l'intercession d'un saint quelconque, encore là, vous êtes perdu. Si vous vous êtes reposé sur les œuvres de vos mains, sur quelque chose que vous auriez fait, des bonnes œuvres, vous êtes perdu. Si vous vous êtes reposé sur la prière de votre mère, ou sur la droiture de votre mère, de votre père, si vous vous êtes reposé là-dessus, vous êtes perdu. Si vous vous êtes reposé sur une sensation, un sentiment étrange, une émotion, d'avoir parlé en langue ou dansé, si vous vous êtes reposé uniquement là-dessus et que vous ne connaissez pas l'agneau personnellement, que vous ne le connaissez pas lui, alors je vous somme devant Dieu. Mettez-vous tout de suite en règle avec Dieu. Du fond de votre cœur, priez. Et soyez simple, c'est tout, parce que Dieu se cache dans la simplicité. Vous vous souvenez, la Bible dit, tous ceux qui croyaient étaient ajoutés. Et pendant que nous prierons pour vous, j'espère que vous prendrez cette décision éternelle. Seigneur, je dis oui. Et une décision, c'est une pierre. Mais à quoi sert une pierre quand il n'y a pas de maçon pour la tailler, pour adapter sa forme à l'édifice, pour l'ajuster à l'édifice? Alors, laissez le Saint-Esprit vous tailler, faire de vous, à partir de ce que vous êtes, ce que vous devriez être. Si vous n'êtes qu'un membre d'église formaliste, si vous êtes un pécheur, quoi que vous soyez, si vous êtes sans Christ, sans le Saint-Esprit, que Dieu vous accorde la paix ce soir. Maintenant, Seigneur, aussi sainement que possible, et de la façon la plus conforme aux Écritures que je connaisse, je viens maintenant à toi avec ce que je t'ai remis avec la parole. J'espère bien, Seigneur, que la parole a trouvé sa place dans le cœur des gens ce soir. S'il y en a ici qui ne connaissent pas ou qui n'ont pas l'assurance de cette douce présence du Saint-Esprit demeurant dans leur vie, si des accès de colère, de l'indifférence, de l'égoïsme ou quelque chose les a retranchés de cette chose glorieuse et les a empêchés de la recevoir, ou si un credo ou une sensation les a tenus éloignés de la douceur de la communion avec Dieu, qu'ils en soient maintenant délivrés. Et que cet agneau, ce saint parent couvert de sang, qui s'est avancé du trône, qui a traversé les lumières mystiques des couloirs du trône de Dieu, qui s'est avancé pour réclamer son héritage. Ô Dieu, ce soir, accorde-leur de le recevoir. Puisse chaque décision être prise solennellement et puissent-ils s'abandonner à celui qui seul peut les tailler et les façonner pour faire d'eux des fils et des filles de Dieu. Maintenant, en prière, solennellement, je fais ceci de la façon dont je me sens conduit à le faire. Solennellement, devant Dieu, puisqu'il s'est démontré à vous. Et vous qui n'avez pas été un chrétien, ou qui n'avez pas été ce qu'on appelle un de ceux qui adhèrent à une dénomination, mais je parle d'un chrétien né de nouveau. Seulement, vous croyez solennellement que le message est vrai, et vous croyez solennellement que vous ne pouvez être sauvé que par la grâce de Dieu. Et vous croyez vraiment qu'il parle à votre cœur en ce moment, et vous voulez l'accepter, et vous êtes prêt à laisser sa parole vous tailler, faire de vous, à partir de ce que vous êtes, ce que vous devriez être. Voulez-vous attester ce qui vient d'être dit en vous levant? S'il y a une telle personne ici qui veut faire ce qui est entièrement suffisant, levez-vous.
Heavenly Father, I know not no more what to do but to quote your word. Here are men standing on their feet.
Père céleste, je ne peux rien faire de plus que citer ta parole. Voici des hommes qui se sont levés, qui considèrent qu'ils n'ont pas été ce qu'ils devraient être, c'est-à-dire prêts pour cet enlèvement. Car celui-ci pourrait avoir lieu avant que le premier sceau ne nous soit ouvert. Et Père, je prie pour eux. Je, en tant que ton serviteur, j'offre cette prière au grand intercesseur, Christ. Pendant qu'ils prient, j'offre ma prière avec eux sur le trône d'ivoire de Dieu, où se trouve le sacrifice couvert de sang ce soir. D'une minute à l'autre, il pourrait se lever du trône pour venir réclamer son bien. À ce moment-là, plus de miséricorde, c'est le jugement. Accorde, Seigneur, à ces gens qui sont debout. Ils sont en train de faire leur confession dans leur cœur. Et ils sont prêts à laisser l'Esprit de Dieu les modeler, les tailler et les façonner en pierre vivante pour former la maison du Seigneur Dieu. Accorde-le, Père, je te les confie maintenant. Et tu as dit, celui qui me confessera devant les hommes, je le confesserai devant mon Père et les saints anges. Et maintenant, tu es là, en présence de tous ce soir. Et ils sont debout, ils te confessent. Alors, Seigneur, si c'est du fond de leur cœur qu'ils le font, aussi sûr que la parole de Dieu est vraie, tu es maintenant en train d'intercéder pour eux, de les accepter dans les sphères de la grâce et de la miséricorde du sang purificateur de l'agneau du sacrifice. Et ils seront à toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, vous qui voyez ces gens debout, le jeune homme qui est juste là, et ceux qui sont debout, vous qui êtes de ceux chez qui tout péché et toute condamnation ont disparu, je voudrais simplement que vous vous leviez, certains d'entre vous qui sont près d'eux, serrez-leur la main et dites, « Frère, je vais prier pour vous. Sœur, je prie pour vous. » Serrez-leur simplement la main et dites, « Que Dieu vous bénisse. » Et maintenant, le reste est entre les mains du Tout-Puissant. Dites, je prierai et je ferai tout ce que je peux pour vous aider à entrer dans le royaume de Dieu. Oh, il appelle aujourd'hui. Oh, Jésus appelle. Il appelle tendrement aujourd'hui. L'aimez-vous? N'est-il pas merveilleux? Qu'est-ce que nous ferions si nous n'avions pas ceci?
Amen.
L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais c'est de toute parole qui sort de la bouche de Dieu que l'homme vivra. Oh, nourris-moi, Seigneur, de la parole. N'abandonnez pas votre assemblée, comme c'est la coutume chez les incroyants, et cela d'autant plus que vous voyez le jour approcher. Dieu voulant, demain soir, par la grâce de Dieu, j'essayerai de tout mon cœur de lui demander d'intercéder pour que le mystère de ses sceaux, alors qu'ils s'ouvriront, proclame la parole de Dieu au peuple. Jusqu'à ce que je vous revoie, que Dieu soit avec vous. Et maintenant, je remets la réunion à notre noble frère, frère Neville, le pasteur. Combien aime frère Neville? Alors, nous l'aimons tous. Venez, frère Neville. Frère Neville, que Dieu vous bénisse, frère. Shall we stand together to our feet? Remember the service tomorrow night. Be much in prayer. Expect great things of the Lord as we have already received from His bountiful hand. Shall we bow our heads together in a word of prayer? Heavenly Father.